J'ai toujours pensé que mon plan A, soit celui d'être salarié dans un emploi que j'aime plus ou moins, ben, ça allait être ça, ma vie. On se le fait dire depuis qu'on est tout petit, donc on finit par se résigner. Mais j'ai décidé de sauter à pieds joints dans mon plan B, soit celui d'être travailleuse autonome / entrepreneur. Je m'appelle Émilie et bienvenue au podcast Plan B, là où on met notre bonheur au premier plan. Hello tout le monde et bienvenue au 7e épisode du podcast Plan B. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter une belle nouvelle année, donc j'espère que 2022 va être une année remplie d'accomplissements, de dépassement de soi. J'espère aussi que vous allez prendre soin de vous, de vos relations, que ce soit en amitié, dans votre famille, que ce soit amoureux, donc peu importe, soyez bien entourés et prenez soin de vous. C'est ce que je me souhaite aussi en même temps, donc on se souhaite du succès et plein d'amour, plein de bonheur. Donc, concernant l'épisode de cette semaine, je tiens à vous dire en partant que c'est un épisode qui est quand même assez long, mais qui est super pertinent. Mon invité va vulgariser plein d'informations tellement pertinentes en lien avec l'entrepreneuriat. Par exemple, les défis qu'il a dû lui-même traverser à travers son cheminement avec son lancement d'entreprise, les obstacles qu'il a dû surmonter et comment il est arrivé. Donc, je trouve que c'est un parcours qui est vraiment inspirant, qui va vous aider, vous outiller aussi si vous voulez vous lancer en affaires. Et on y parle aussi d'économie circulaire, qui est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc, voilà, je vous laisse sur l'épisode! Aujourd'hui, on reçoit Sébastien, le fondateur de l'entreprise Wisely Food, qui est une entreprise de produits alimentaires végétaliens et qui favorise l'économie circulaire. Donc, bienvenue au podcast et comment ça va en ce moment avec les lancements des produits, l'entreprise qui prend de l'expansion?
Ouais. Ça va bien, merci beaucoup de me recevoir. Je suis super touchée qu'on puisse discuter ce soir ensemble puis que les gens vont pouvoir écouter par la suite notre merveilleuse discussion. Ça va super bien, mais ça va occuper. Donc, comme tu dis, on lance plusieurs gammes de produits prochainement en épicerie. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais on est super content que tout ça arrive finalement à la fin. Donc, le gros du chemin va avoir été fait. Maintenant, ça va être vraiment les consommateurs qui vont avoir leur voix en achetant nos produits directement en magasin. Donc, on a bien hâte de voir la réponse des gens.
Ben, en tout cas, ma réponse personnellement, c'est que c'est excellent. Donc, j'ai eu la chance de goûter aux produits de la compagnie et pour vrai, c'est délicieux. Justement, là, on peut parler que l'épisode va sortir en janvier. Donc, si vous écoutez ça, on est en janvier. Ça se peut très bien que vous trouviez les produits en épicerie et il y a des pizzas véganes qui sont excellentes. J'ai pu y goûter et franchement, c'est à tomber par terre. Du tofu brouillé aussi. Et j'ai vraiment hâte qu'on parle un peu plus tard, justement, dans l'épisode, de vraiment l'entreprise en détail, des valeurs de l'entreprise. Mais pour commencer, on va y aller avec ton parcours parce que avant de partir une entreprise, on a tous un passé. Puis c'est vraiment souvent sur ça qu'on se base pour ensuite bâtir une entreprise. Donc, j'ai su que tu avais travaillé pour Avril, que tu as été directeur marketing pour Veg Nature, directeur des ventes pour Evive.
Ouais.
J'ai donc, un gros background dans l'alimentation, ouais. Parle-moi-en donc un petit peu.
Bien, en fait, avant ça, j'ai commencé dans les télécommunications. Moi, j'ai étudié en communication marketing à l'UQAM. J'ai fait un bac à l'UQAM pendant 3 ans. Puis, à la sortie de mes études, j'ai vraiment fait un stage chez Vidéotron. J'ai fait quand même plusieurs années là-bas. Donc, j'ai commencé stagiaire, j'ai monté coordonnateur marketing, puis après ça, j'ai même fini gestionnaire. J'ai touché à différents types de produits aussi parce que chez Vidéotron, ils travaillent vraiment, c'est une équipe marketing par famille de produits. Donc, une équipe pour la télé, une équipe pour le mobile, par exemple. Fait que j'ai touché à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis, c'est à travers mes années de travail chez Vidéotron, en fait, que je suis devenu vegan. Ça vient de là. Ça fait 9 ans pratiquement maintenant que je suis végétalien. Puis à l'époque, on se rappelle, c'était quelque chose qui était quand même pas très connu ou très populaire, disons. Moi, j'arrivais à l'époque, j'étais même pratiquement 100% crudivore. J'arrivais au travail avec des grosses salades familiales. Tout le monde me regardait. Qu'est-ce qu'il fait Sébastien à manger ça? Fait que c'était quand même très différent de ce que les gens consommaient de façon régulière comme dîner, par exemple. Puis de fil en aiguille, c'est ça, je me suis mis à communiquer un peu ma passion pour la nourriture, les aliments véganes, végétaliens, crudivores. Puis de fil en aiguille, j'ai décidé que je voulais faire vraiment le transfert vers l'alimentation. Fait que moi, je suis quand même quelqu'un de persévérant, fait que j'arrêtais pas d'appeler Avril pour dire « j'aimerais ça être directeur de magasin, j'aimerais ça être directeur de magasin ». C'était mon souhait à l'époque, mais il me disait toujours « écoute Sébastien, t'as une candidature intéressante, mais t'as jamais géré du personnel ». C'est plusieurs centaines de gens en magasin. Un magasin en moyenne, c'est à peu près 100 d'employés. Fait qu'ils m'ont, de fil en aiguille, finalement, ils m'ont donné une occasion de faire mes preuves. Fait qu'à l'époque, ils ouvraient le Avril à Sherbrooke. J'ai transféré là-bas. J'avais jamais mis les pieds à Sherbrooke de ma vie. J'ai quitté Montréal, je me suis pris un appartement à Sherbrooke, j'ai ouvert un magasin là-bas, j'étais gérant d'épicerie. Gérant d'épicerie, c'est un des plus gros départements dans le magasin, donc j'avais
peut-être une
quinzaine d'employés. Ça m'a permis un peu de mettre ma main chez Avril, de voir comment ça fonctionnait, les opérations dans un magasin, l'approvisionnement, bon, tout ce qu'on connaît d'un magasin, d'une épicerie. Puis de fil en aiguille, en fait, ils m'ont transféré. Après ça, spécialiste opération. Donc, jour au lendemain, moi, j'étais sur la route puis je m'occupais, en fait, de l'ensemble des magasins avec mon patron de l'époque. Donc, ça a été une super expérience. Puis après ça, j'ai été recruté par Vegnature parce que je les avais contactés parce que, justement, j'étais toujours chez Avril en magasin et les produits s'envolaient des tablettes littéralement. Mais à l'époque, on se rappelle, l'emballage était quand même pas super sexy. Puis j'étais comme, mon Dieu, si l'emballage était beau, en plus, il en vendrait encore plus. Fait que j'avais proposé mes services avec mon bagage marketing pour dire, ben écoutez, moi, ça me ferait plaisir de vous aider gratuitement pour améliorer votre emballage, votre positionnement, les réseaux sociaux, tout ça. Puis bon, après, ils m'ont recruté temps plein. Fait que j'ai été directeur marketing là-bas. J'ai transféré au niveau des ventes à travers mon processus chez Vegnature. Puis après ça, c'est Yvi qui m'a recruté pour travailler avec eux au niveau des ventes. Fait que j'ai fait un petit bout aussi là-bas. Mais j'ai quitté par la suite Yvive parce que en même temps, moi, j'avais commencé sur mon projet, mon petit bébé Wisely, puis c'était trop, en fait, les deux en même temps, fait que j'ai quitté pour me concentrer temps plein sur Wisely.
Mais justement, là, par rapport à Vegnature, c'était en quelle année? Parce que je pense qu'on s'est déjà parlé. J'ai ton courriel de Vegnature dans Gmail, puis je me souviens pas particulièrement de c'était à quel moment, là.
Oui, ça se peut. Ben, ça fait, j'ai commencé là-bas, je pense, c'était en 2017-18. J'ai fait quelques années quand même. J'ai fait 2 ans et demi. Après ça, j'ai quitté. Puis après ça, j'ai fait du contractuel aussi avec eux. Fait que ça se peut qu'on se soit parlé à quelques reprises pendant mon époque Vegnature.
Ah, ben je pense que c'est ça quand j'avais organisé un concours à un moment donné, puis j'avais demandé à Vegnature, donc c'est sûrement à toi que j'avais parlé. C'est quand même... Ah, le monde est petit!
Ouais, c'est un petit monde de l'alimentation au Québec quand même.
Vraiment, ben justement, c'est fou que tu aies passé à travers plusieurs entreprises en alimentation végétalienne. Ça t'a permis clairement de faire tes preuves, de aussi avoir des contacts. Est-ce que c'est en travaillant avec ces entreprises-là que tu as décidé de te lancer en affaires parce que tu as appris justement plein de trucs avec les différentes entreprises?
C'est pas à cause de ça. J'ai toujours voulu me lancer en affaires depuis que je suis tout petit, mais j'ai jamais su dans quoi. Puis en fait, à travers cette aventure-là, je suis devenu végane, j'ai travaillé pour des entreprises agroalimentaires. En fait, je me suis rendu compte que c'était ma passion. Fait que c'est vraiment là-dedans que je voulais lancer une entreprise. Mais à la base, je voulais déjà faire quelque chose, mais je savais juste pas dans quoi. J'ai essayé plein d'affaires. À un moment donné, j'ai même voulu partir une résidence pour personnes âgées. J'avais fait un plan d'affaires. Je voulais vraiment m'investir dans quelque chose, mais je savais pas quoi. Puis je pense que pour être entrepreneur, il faut vraiment être passionné parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis si on n'est pas prêt à mettre les efforts, le temps, l'énergie, ben c'est quelque chose qu'au final, on ne fera pas. Fait que pour moi, l'alimentation, c'était tout naturel. Je veux vraiment me lancer là-dedans. Je suis super content aussi de contribuer à une saine alimentation des consommateurs, faire quelque chose de différent aussi. Fait que ça me plaît beaucoup.
Mon petite parenthèse, là, mais les ingrédients de la pizza, par exemple, que vous avez chez Wisely, c'est effectivement super sain, mais c'est vraiment gourmand aussi. La liste est super claire, donc en tout cas, on va en parler plus tard, là, mais je pense que vous allez vraiment aimer l'approche de l'entreprise, autant pour le côté, oui, santé, mais autant que c'est gourmand. Et surtout, bon, la partie de l'économie circulaire que j'ai vraiment hâte aussi de parler. Hein. Mais là, je veux savoir, est-ce que d'abord, est-ce que tu te qualifies de foodie, vu que tu as toujours baigné dans le monde de l'alimentation? Hein?
Ouais, quand même. J'aime bien manger, mais je te dirais, je suis plus extrémiste dans mon alimentation, dans le sens que moi, je peux manger de la pulpe directement. Si c'est pas bon, moi, c'est bon pour la santé, je vais le manger. Mais j'aime aussi quand même des plats recherchés. J'adore Sushi Momo, j'adore les restaurants véganes qu'on a à Montréal. Je pense que de plus en plus, l'offre est super intéressante, mais je me rappelle à l'époque, moi, souvent, je mangeais pas. Je conseille ça à personne, mais je sortais avec des amis, puis à l'époque, il n'y avait pas d'offre vegan, mais moi, je suis pas le genre qui va tricher, fait que je mangeais juste pas, ou j'emmenais mon lunch, ou je mangeais quelque chose avant. Fait que c'est sûr que c'était plus difficile. Maintenant, c'est quand même différent. Je pense que l'offre est beaucoup plus intéressante, puis meilleure aussi qu'avant. Là.
Mais clairement, il y a une couple d'années, il n'y avait pas beaucoup d'options en épicerie pour manger vegan. J'imagine que tu mangeais des légumineuses en canne, des légumes, des fruits, puis justement, tu étais plus crudivore. Donc, c'est quand même pas que c'est facile, mais reste que des fruits et des légumes, il y en a toujours eu. Mais
Ouais.
c'est sûr que des fois, il y a d'autres, faut quand même aller chercher l'apport en protéines ou quoi que ce soit ailleurs. Tu mangeais du tofu directement cru, j'imagine, là, parce que j'entends des gens faire ça, puis ça me surprend tout le temps.
Oui, j'ai déjà fait. Je mangeais beaucoup, beaucoup de légumes. Sincèrement, c'était comme je mangeais un poivron comme on mange une pomme, par exemple. Je mangeais des concombres directement, déballés direct, même pas coupés. Fait que je mangeais beaucoup, beaucoup de légumes, beaucoup de smoothies aussi. C'est sûr que je mangeais pas tant que ça des légumineuses, mais justement pour
Ah non?
combler le besoin de protéines, parce qu'il y en a quand même dans les légumes, mais il faut en manger plus. Fait que je mangeais quand même des grosses quantités de nourriture. C'est pour ça que les gens étaient comme surpris. J'arrivais quasiment avec mon panier le matin, trois, quatre piments, trois, quatre concombres, une grosse salade, des pommes. Puis là, les gens disaient, mon Dieu, il va tout manger ça. C'est mon épicerie de la semaine en fruits et légumes, mais moi, je mangeais ça en une journée. C'est un peu
Puis
intense.
comment tu te sentais justement dans ce temps-là de manger comme ça? Parce que j'ai jamais connu de personne qui était crudivore, donc là je suis curieuse, j'ai envie d'en savoir plus.
Ouais, ben je te dirais, allez, maintenant je le suis plus. Je mange encore beaucoup de légumes, mais je mange des trucs cuits là. Je suis comme un peu moins extrémiste dans mon alimentation, mais j'étais super en forme. Sincèrement, je courais 12 à 15 km par jour. Je me levais à 4 heures, je dormais 5 heures par nuit. J'allais à l'école aussi. J'ai fait un certificat d'entrepreneuriat en même temps de travailler temps plein, travailler sur des projets. J'avais de l'énergie, ça n'avait pas de bon sens. J'étais plus jeune aussi, mais vraiment, moi, j'ai trouvé ça super facile, même beaucoup plus simple que manger comme je mangeais avant de la viande ou d'autres choses, parce que justement, j'avais pas à me casser la tête. Je prenais trois, quatre pommes, un concombre, je partais, j'avais ma bouffe pour la journée. Pour moi, c'était super simple.
Wow, justement, tu dis que c'est super simple, là. Ben, effectivement, on voit la simplicité là-dedans. Puis on dirait que j'aime ça, le fait d'un peu de retourner aux sources, de manger qu'est-ce qui pousse dans la terre, dans les arbres, puis de juste être satisfait de ce que la terre nous offre, là. Donc, c'est quasiment un peu spirituel de manger comme ça, on dirait, là.
Ouais, mais maintenant c'est ça. Maintenant, je fais plus ça, mais ça a été le fun. Moi, j'aime ça de tester des choses. Fait que ça a été comme
Ouais.
un test. Je l'ai fait quelques mois, même peut-être un an et demi. Puis après ça, ben, j'ai passé à la prochaine affaire. Puis c'est bien correct.
Ben c'est ça, puis l'alimentation végétalienne, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on apprend toujours des nouvelles techniques, il y a toujours des nouveaux aliments qui arrivent sur le marché aussi. Donc, autant quand on veut rester dans le moins transformé que dans le transformé, c'est en constante évolution. Ouais. Puis justement, il y a une demande pour les produits végétaliens, mais l'offre peut qu'augmenter et c'est vraiment intéressant. Donc, je pense que c'est en ce moment surtout un bon move là, de se partir en affaires dans l'alimentation végétalienne. Donc,
Ouais.
good move.
Ouais.
Donc là, un background en marketing, communication, en plus, tu as toujours eu un intérêt pour l'entrepreneuriat, tu as fait un certificat en entrepreneuriat, donc ça a toujours été trotté dans ta tête. Comment ça a commencé, Wisely? C'était environ dans quelle année?
Ça a commencé en 2018. Dans le fond, l'histoire, c'est que j'avais reçu justement un juicer à Noël. Fait que j'ai commencé à expérimenter à faire des jus crus. Puis justement, moi j'achetais bio à l'époque. Pour les jus principalement, j'achète pas nécessairement 100% bio, mais pour les jus, c'est recommandé parce que bon, on boit directement la totalité du fruit ou du légume. Fait que j'achetais ça, mais ça coûtait plus cher. Fait que pour moi, c'était un non-sens de jeter la pulpe qui restait derrière. Fait que tu sais, les carottes, même le kale, j'étais comme, mais c'est bon encore. Tu sais, c'est la carotte, c'est quasiment, t'as la carotte entière, tu prends le jus, mais il reste quand même beaucoup de fibres après qui est la pulpe dans le fond. Fait que moi, je la mangeais. Je mangeais de la pulpe.
À
Puis,
cuillère.
à cuillère. J'ai essayé plein d'affaires. Je mettais de la cannelle des fois. C'était comme un petit dessert. Des fois, je mettais d'autres choses. Ouais, j'expérimentais. Justement, j'avais ma conjointe qui me regardait, qui disait, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas de bon sens. Personne ne va manger ça, sauf toi. Fait que de fil en aiguille, je me suis dit, ben, je vais commencer à tester des choses pour incorporer cette pulpe-là dans des produits. Fait que là, j'avais plein d'idées, je me suis dit, je vais faire, tu sais, je suis pas très dessert à la base, fait que j'essayais des affaires plus salées, fait que est-ce qu'on peut mettre ça dans des pains, est-ce qu'on peut mettre ça dans des croûtes, est-ce que je peux faire des tortillas, puis de fil en aiguille, justement, l'idée est venue des pizzas. Fait que j'ai travaillé avec l'Université McGill, on a fait une première version de pizza, faite à partir de pulpe recyclée, fait qu'on a lancé ça sur le marché. Malheureusement, avec le COVID, on a eu des enjeux d'approvisionnement, mais c'est la prémisse de base, c'est vraiment parti de... J'achète des fruits et légumes, j'en fais du jus, puis de la pulpe qui reste à l'arrière, puis c'est encore super intéressant au niveau des valeurs nutritives. Qu'est-ce qu'on peut faire pour revaloriser ces ingrédients-là? quand j'ai commencé à fouiller en fait sur le web puis un peu dans le marché de la transformation agroalimentaire, c'est quoi les rejets qui existent? Ben, c'est là que ça m'a frappé. C'est énorme les quantités de nourriture qu'on jette. Au Canada, c'est 58 % des aliments qu'on produit qui sont jetés. Fait que c'est plus qu'un aliment sur deux. C'est vraiment triste parce que, ben, premièrement, il y a beaucoup de ressources qui sont déjà mises en amont pour transformer ces aliments-là. Donc, par exemple, si on prend une carotte qui a poussé dans le champ, ben, elle a eu besoin d'eau, d'engrais. Il y a un producteur qui a travaillé dessus, qui l'a récolté, qui l'a envoyé dans une usine, qui l'a lavé, qui l'a coupé. Fait que tout le chemin, toute cette énergie-là est gaspillée. Aussi parce que c'est des aliments qu'on pourrait utiliser aussi pour nourrir des gens. Tu sais, on pense souvent aux endroits dans le monde où sont plus défavorisés, mais même ici au Canada, quand même, un Canadien sur sept qui souffre d'insécurité alimentaire. Puis, même ça touche des enfants, c'est 1,4 million d'enfants qui ne mangent pas leur faim ici au Canada. Donc, encore une fois, ces aliments-là pourraient tellement servir à plein de gens dans la communauté, fait que ça faisait encore moins de sens pour moi qu'on jette ces aliments-là. Puis, le volet aussi environnemental qui touche aussi à mes valeurs, pourquoi je suis devenu végane, c'est le gaspillage alimentaire crée aussi des gaz à effet de serre parce que quand on enfouit ces aliments-là dans les sites d'enfouissement, pardon, ça crée du méthane. Puis le méthane, c'est 25 fois plus dommageable que le CO2. Donc, ça a un gros impact sur les gaz à effet de serre. Ça représente 8% en fait, le gaspillage alimentaire des gaz à effet de serre. Donc, tout ça ensemble, pour moi, c'était comme, faut faire quelque chose. Puis je pense que le changement peut passer par les entreprises éco-responsables, d'enlever cette responsabilité-là des consommateurs. Parce qu'on dit souvent, on se tape, là, puis même moi, là, on se dit, mon Dieu, je jette de la bouffe. Bon, on n'en jette pas tant que ça au final, parce que c'est un petit pourcentage comparativement à ce qui est jeté dans la transformation, dans la distribution des fruits, des légumes, par exemple, ou peu importe, il y a plein de d'aliments qui sont rejetés en usine. Puis pas parce que c'est plus bon, c'est juste parce qu'on n'en a pas besoin ou ça fait pas partie d'un processus X ou ça coûte trop cher à récupérer même. Fait que nous, on a décidé de se concentrer sur des rejets industriels. Donc, l'Ocara, nous, c'est ce qu'on fait chez Wisely. On récupère l'Ocara, qui est un résidu de fabrication du tofu. Pour faire une histoire courte du tofu, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on prend le grain de soya, on le trempe. Ce grain-là est ensuite moulu entre deux pierres. Ça fait une genre de purée. Cette purée-là, on va la filtrer. Donc, on retire le lait qui va être utilisé pour coaguler et faire le tofu. Mais la partie solide, elle, est jetée actuellement. Donc, elle reste prisonnière du filtre. Elle est jetée directement. Puis ça, c'est plein de fibres. C'est 14 grammes de fibres par 100 grammes d'ocara. Il y a des vitamines, il y a des minéraux. Il y a peu de protéines parce que dans le processus, les protéines s'en vont vraiment comme dans le lait qui va être coagulé pour faire le tofu. Mais de toute façon, les protéines, on en mange deux fois trop au Canada. C'est les fibres qu'on mange deux fois moins. Fait que chez Wisely, ça fait aussi partie de ce qu'on veut promouvoir. C'est vraiment l'incorporation de fibres dans votre alimentation. C'est super important pour la santé, en fait.
En fait, il y avait deux points que je voulais amener. Premièrement, l'ocara, est-ce que c'est seulement pour le tofu ou c'est aussi, par exemple, quand on fait du lait d'avoine, le résidu de l'avoine, en fait, qui est comme pas tamisé, je ne sais pas comment expliquer. Là.
Ouais.
Ça aussi, c'est de l'ocara ou pas nécessairement? Ça a un autre nom, hein?
Non, c'est une bonne question. C'est aussi de l'ocara, en fait. Ouais.
OK. Donc, en fait, c'est vraiment le rejet de quand on passe un aliment solide en liquide.
Ouais.
Ce qui reste, c'est l'ocara.
Oui. Okay. On peut avoir l'avoine, on peut avoir le soya, justement. Tous les types de lait, souvent, il va y avoir une partie pulpeuse qui est rejetée. Puis oui, ça, c'est de l'ocara. Fait que nous, on travaille avec le tofu. Puis le tofu, en plus, c'est des millions, en fait, de blocs qui sont vendus juste au Québec chaque année. Fait, imaginez la quantité d'ocara qui est jetée. Il y a toujours une partie qui est utilisée pour l'alimentation animale, mais c'est quand même des faibles pourcentages encore à ce jour. Donc, il y a quand même des tonnes et des tonnes d'ocara qui est jetée à chaque jour. Donc,
clairement, sachant qu'on peut les réutiliser pour mettre ça dans d'autres aliments puis revaloriser justement ces ingrédients-là, ces aliments-là. Puis tu parlais justement du côté environnemental, mais je pense que de nos jours, si on se part en affaires, il faut avoir des valeurs éco-responsables. Ça ne fait plus vraiment de sens de partir une entreprise qui ne l'est pas du tout, hein. Surtout quand on sait avec les changements climatiques, tous les problèmes environnementaux qui vont faire que s'aggraver avec le temps si on ne change pas. Puis justement, oui, en tant que consommateur, on peut faire une différence là,
ouais,
quand même, mais les entreprises ont quand même le gros bout du bâton là. Donc effectivement, si on se part en affaires, il faut partir avec des bases solides pour l'environnement. Puis aussi le côté social que tu parlais pour justement, ça peut aider aussi la communauté. en offrant, qu'est-ce qui est jeté, si ça peut être offert finalement aux gens pour permettre à justement des personnes d'avoir plus accès à la nourriture ou quoi que ce soit, considérant qu'on jette la moitié, plus de la moitié de ce qu'on produit.
Ouais.
Ça fait peur hein, qu'on y pense, là.
Exact. Puis il y a des super beaux modèles aussi qui existent actuellement de récupération. Tu sais, les applications qu'on peut acheter des fruits moches qui sont redistribués aussi à des,
Oui.
à des gens qui sont moins en besoin, qui ont moins de sous, pardon. Donc, il y a plein de façons qu'on peut récupérer ces aliments-là. Tu sais, Wisely en contribue, mais il y en a plein d'autres. Puis c'est vraiment tout le monde ensemble qui va avoir un impact majeur parce que c'est 35,5 millions de tonnes d'aliments qui sont jetés. Fait qu'il y en a de la place, là. Puis il faut les récupérer le plus possible. C'est sûr que nous, toutes seules, on n'aura pas un impact immense, mais si on les additionne avec tout le reste, ben je pense qu'ensemble, on peut vraiment faire une grosse différence au niveau du gaspillage.
Si les gens qui se partent en affaires décident d'y aller tous un petit peu dans cette direction-là, l'alimentation végétalienne, déjà, c'est quand même un petit milieu. Tout le monde se connaît, on dirait, au Québec, là. Donc, on peut s'entraider là-dedans. Puis, il y a une entreprise que tu connais sûrement, Loop.
Oui.
Bien, c'est vraiment intéressant. Ils ont parti le Loop Synergie.
Ouais.
Puis, je veux vraiment m'informer encore plus là-dessus parce que, de ce que je comprends, ils viennent justement permettre le contact entre l'entreprise qui fait initialement le gaspillage, là, qui est un rejet alimentaire, et une autre entreprise qui voudrait récupérer cet aliment-là qui aurait été gaspillé pour en faire quelque chose dans son entreprise. Donc, un peu un cercle pour permettre d'éviter le gaspillage alimentaire. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment pertinent.
Oui, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font parce que justement, faire de l'économie circulaire, c'est pas si simple que ça parce que justement, récupérer, souvent, c'est des résidus, il faut les récupérer, ça prend un procédé spécial pour les transformer, les rendre stables. Pour que ça soit sain aussi pour les consommateurs qui vont acheter le produit. Fait que ce qu'ils vont faire, eux, c'est justement de traiter ce rejet-là puis de le rendre stable pour l'utiliser comme ingrédient. Donc, c'est merveilleux. Ça va aider beaucoup là, les consommateurs à travailler avec ces rejets industriels-là au niveau de l'alimentation. Ouais.
Clairement. Puis justement, là, tu as dit le mot économie circulaire. Donc, aurais-tu une définition pour les gens qui ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est? Hein?
Ben, en fait, oui. En fait, avant, jusqu'à ce jour, on était dans une économie qui était linéaire, donc la ressource est extraite, elle est transformée, elle est vendue, puis après ça, ben c'est la fin. Il y a comme pas de suite à ça. Un modèle circulaire, c'est vraiment ce que je viens de dire. Donc l'aliment va être poussé en champ, par exemple, si on prend mettons encore l'exemple de la carotte, va être transformé, va être distribué, puis après ça, justement, tout ce qui est le rejet, ben qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fait que nous, est-ce qu'on peut le remettre dans le champ pour faire de l'engrais? Est-ce qu'on peut l'envoyer en alimentation animale? Est-ce qu'on peut le réutiliser pour mettre dans d'autres produits alimentaires? Fait que c'est vraiment de faire une boucle, puis qu'en fait, il y a rien qui se perd, puis qu'il y a plusieurs synergies aussi entre différentes entreprises. Donc, l'aliment va vraiment faire un 360 et non juste faire une ligne droite, puis qu'au final, il va y avoir des rejets au bout.
Et je trouvais ça tellement pertinent parce que, bon, là, en ce moment, je développe mon entreprise aussi en alimentation, ouais, et j'aimerais vraiment pouvoir appliquer ce principe-là aussi dans mon entreprise. Et je pense que, honnêtement, ça serait bien que la majorité des entreprises nouvelles fassent ça si on a la possibilité, si on a alimentation, par exemple, mais clairement que ça doit venir avec des défis. Donc, je me demandais comment que ça gère au quotidien vraiment de pouvoir récupérer des rejets parce que, bon, premièrement, si initialement c'était des rejets, il y avait sûrement une raison. Ça va être quand même assez compliqué, justement, de réutiliser des rejets pour en faire d'autres produits, là.
Oui, c'est difficile. Puis je vais donner un exemple quand même très concret. En ce moment, on voit de plus en plus de compagnies qui utilisent la drèche, qui est un résidu de brassage de la bière. Mais ça, la drèche, tu sais, quand ça sort des bassins, c'est chaud, c'est humide. C'est des conditions parfaites pour la prolifération des bactéries. Fait que c'est là que c'est souvent là les enjeux. C'est comment traiter cette matière-là rapidement dans un contexte d'économie circulaire, comme je disais tantôt, où il y a une synergie entre plusieurs entreprises. Donc, moi, je génère, exemple, de la drèche. Bien, comment mon partenaire, lui, peut récupérer ça dans un temps X pour que la matière soit saine à être réutilisée dans un autre produit alimentaire. Donc, de notre côté, le CARA, c'est un peu la même chose. Il faut vraiment avoir une boucle serrée. Il faut avoir des procédés quand même très serrés en usine pour s'assurer qu'on puisse traiter cette matière-là rapidement dans des conditions qui vont permettre de la stabilité du produit. Fait que c'est ça qui est difficile dans l'économie circulaire, en fait, c'est de traiter ces aliments-là rapidement. Surtout s'ils sont chauds, humides, il y a des trucs que c'est plus simple. Par exemple, des rejets de coupe dans les usines, comme exemple chez Bonduel, par exemple, s'ils vont couper des brocolis, des choux-fleurs, il y a toutes des petites particules qui vont tomber. Ça, c'est plus simple parce que c'est un légume cru, on peut le congeler directement sur le champ, puis après ça, l'envoyer à d'autres compagnies qui vont l'utiliser. Mais comme nous, le CARA, c'est un peu le même principe que la drèche, car ça sort du processus de filtrage, c'est très, très, très chaud, c'est très humide, donc c'est full parfait pour les bactéries, fait qu'il faut le traiter rapidement pour s'assurer que ça soit sain. Puis on a toutes mis les choses en place pour le traiter rapidement. On collabore avec CA Distinction, qui est aussi notre compagnie sœur. Donc, on collabore avec eux, puis on a mis vraiment un processus en place pour s'assurer que l'ingrédient va être récupéré et transformé dans les minutes qui suivent. Donc, ça nous permet justement de s'assurer de l'utiliser. Puis nous, chez Wisey aussi, l'autre truc qu'on essaie de faire, c'est, oui, récupérer des aliments, mais en mettant le moins d'énergie possible à les retransformer. C'est-à-dire, exemple, le CARA, nous, on avait la possibilité soit de l'utiliser frais ou de le déshydrater en poudre, par exemple, pour après l'incorporer dans d'autres aliments. Ben, la déshydratation, c'est le fun, ça permet une stabilité, mais actuellement, par contre, ça demande une charge d'énergie supplémentaire pour retirer toute cette eau-là de l'Ocara, puis d'après ça, de le mettre en farine, donc le moule, etc. Donc, nous, on essaye d'avoir le moins de transformation nécessaire pour s'assurer de garder le plus de ressources en amont et non après en rajouter sur le rejet. Fait que
Ah, je comprends.
c'est ça qui est difficile avec l'économie circulaire, mais de plus en plus, les gens sont ouverts à ça, les usines sont ouvertes à ça. Parce que souvent aussi, j'ai eu le même problème sur d'autres types de rejets, par exemple pour des légumes, où ils ont juste pas la ligne, parce que souvent c'est une ligne conditionnée avec des machines, puis là, bifurquer ce rejet-là, ben ça demande des investissements soit majeurs ou du personnel qu'on n'a pas en ce moment avec la pénurie de la main-d'œuvre. Fait que souvent, c'est le rejet qui est jeté, c'est pas par manque de volonté, c'est aussi par manque de ressources à l'interne, pas les ressources au niveau des équipements ou au niveau de la main-d'œuvre. Fait que c'est quand même des enjeux qui sont difficiles. Fait que je pense que tout le monde, puis j'ai vu une étude récemment qui disait que 95% des Canadiens veulent contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire. Je pense que les gens qui possèdent des usines aujourd'hui aussi veulent contribuer, mais des fois au niveau opérationnel, c'est pas possible, ou c'est trop compliqué, ou c'est trop coûteux. Parce que c'est l'autre enjeu. Si tu es capable de récupérer ton rejet, mais tu le vends 5 fois plus cher que la carotte qui tu peux acheter à l'épicerie, malheureusement, encore à ce jour, ça va être difficile de le vendre. Donc, il y a toujours aussi l'aspect financier qui est pas évident dans l'équation.
J'avais justement cette pensée magique-là que c'était facile de juste, tu récupères le déchet, puis t'en fais autre chose, puis c'est tout, mais ça a l'air vraiment plus compliqué qu'on le pense. Puis ça me fait penser un peu à un point qu'on avait abordé avec Tao dans l'épisode précédent, des critiques que justement on peut recevoir envers notre entreprise. Puis là, j'imagine que c'est ça. Quand on a une entreprise, on reçoit des critiques par rapport à des choses qu'on fait ou fait pas, mais là, ça vient de me faire penser que souvent, on réalise pas c'est quoi la réalité derrière l'entreprise. On veut faire du mieux qu'on peut, mais il y a des choses qui sont un petit peu hors de notre contrôle. Puis là, justement, ben là, c'est sûr que là, vous êtes dans une mentalité où que vous le faites, là, l'économie circulaire, vous l'appliquez et ça fonctionne. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner longtemps, mais ça a dû être vraiment du cassage de tête pendant plusieurs années, là.
Ouais, ça n'a pas été évident. Puis justement, on a eu des problèmes d'approvisionnement à cause du COVID. Fait que quand tu dépends aussi d'une autre entreprise parce que tu utilises un rejet de quelqu'un d'autre, ben c'est ça, ça peut causer des problèmes. Là, on va être correct. Avec le carreau, on en a en masse. Fait que c'est super, puis c'est une super belle matière avec laquelle on est content de travailler. Mais c'est ça l'amène quand même des défis. C'est pas si simple que ça, contrairement à ce que les gens peuvent penser.
C'est ça. Ben là, c'est vraiment, je pense, un très bon move que vous avez fait de vous associer avec une entreprise de tofu, justement, comme ça, ben automatiquement, vous allez pouvoir prendre les rejets. Donc là, si on revient au début de Wisely, quand que vous avez commencé à sortir des, c'était juste des pizzas en fait au début, hein?
Oui, on avait juste lancé l'épisode. Ouais.
Puis justement, ça avait été compliqué avec l'approvisionnement. Comment ça s'est passé sinon? Parce que là, c'est sûr que vous avez fait un 360, là. Pendant un bout, on n'entendait plus vraiment parler de Wisely. Finalement, ça revient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, là? Parle-moi de tout ce cheminement-là.
Ouais, ben ça s'est fait, tu sais, pratiquement juste avant la COVID. Ça fait quand même 2 ans déjà, là. Fait que juste avant la COVID, on avait listé les produits. On a eu des enjeux d'approvisionnement sur comme plein, plein, plein de compagnies, sur plein d'intrants différents, que ce soit les matières premières, les boîtes. Ça a été un peu le chaos depuis 2 ans pratiquement. Fait que là, nous, on a fait un 360, on a changé la formulation pour des patates douces, puis on a eu le même problème une deuxième fois. Fait que moi, j'avais le terme, c'est lister, mais faire en sorte qu'on rentre dans les chaînes, dans le fond, là. Fait que j'avais représenté les produits aux chaînes, on avait tout refait le processus, puis on a eu la même histoire qui est arrivée. Fait que là, c'est comme la troisième mouture de la pizza Wisely qui sort. Mais cette fois-ci, on est solide. Fait qu'il n'y aura pas d'enjeu, vous allez pouvoir la trouver en magasin, tout va bien aller, c'est bon. Fait qu'on est super content, mais c'est ça, ça a été quand même tout un défi. Puis à travers tout ça, on a développé aussi d'autres gammes, comme les tofu brouillés qu'on a mentionné en intro. Fait qu'on arrive aussi avec d'autres types de produits qu'on n'avait pas à l'époque. Fait qu'on arrive avec une gamme un peu plus complète, puis nous, on a déjà aussi plein de belles nouveautés qui vont arriver en 2022. On travaille déjà dessus depuis un bon 6 mois, là.
Ah, c'est tellement excitant parce que, pour vrai, la pizza est tellement bonne. Donc là, il y a une pizza au tofu fumé, une pizza toute garnie. Il y a 2 sortes de tofu, un original et un florentine, donc avec des épinards. Honnêtement, la gang, allez vous en chercher. Si vous les trouvez en épicerie, là, je sais qu'il y a les tofu brouillés sur les fermes Loufa. Est-ce que les pizzas aussi sont supposées arriver sur les fermes Loufa?
Non, les pizzas ne seront pas chez Loufa, mais tous les produits, autant les tofu brouillés que les pizzas, ils vont être disponibles pas mal partout en magasin dès janvier, dès le moment du podcast. Au moment de l'enregistrement, on est en décembre, donc on commence tranquillement à faire notre introduction en magasin, mais en janvier, ça devrait être plus une introduction massive. Fait que IGA, Avril, tous les indépendants, Métro, etc., on devrait être là. Si jamais on n'est pas là, toujours possibilité de demander au gérant d'en commander.
Vraiment? Puis là, s'il fallait que tu décrives les pizzas, comment tu les décrirais là, en quelques mots pour donner l'eau à la bouche?
Bon, les pizzas, premièrement, on a fait quelque chose de super différent. C'est une croûte gonflée généreuse, fait une croûte style pizzeria, complètement à l'inverse de ce qui existe au niveau vegan actuellement dans les pizzas surgelées. Fait que c'est une croûte à l'ocara, donc nous, on incorpore 53 grammes d'ocara dans la croûte à pizza. Fait que c'est super intéressant au niveau des valeurs nutritives à cause de l'apport en fibres qu'on amène avec l'ocara. Puis on a 2 SKUs. Donc, on a la toute garnie qui est comme la classique, super bonne. On est super fiers du pepperoni qu'on a réussi à trouver. Très savoureux, très le fun aussi au niveau des ingrédients. C'est fait avec des fèves blanches, entre autres. Fait que pas de caragéine, pas de trucs qu'on sait pas c'est quoi, qu'on n'est pas capable de prononcer. Fait que la toute garnie. Puis celle aussi qu'on est super fiers, c'est celle au tofu fumé qui était pour faire un peu au clin d'œil à la pizza québécoise. Le tofu fumé, ça donne un petit goût de jambon fumé à la pizza. C'est super bon. Fait que les pizzas, c'est pas mal ça. Puis comme tu disais tantôt, les ingrédients pour une pizza surgelée, c'est bien. C'est super. C'est sûr que c'est un produit qui est transformé, mais au niveau des ingrédients, il n'y a rien qui choque. Là. Fait qu'on est super content aussi. Ça a été tout un challenge de trouver un fromage qui est intéressant au niveau des ingrédients, puis au niveau de la texture. Parce que souvent, les produits véganes, c'est ce qui est important, c'est d'avoir une texture qui est intéressante, qui s'apparente à la vraie formulation qui est non végane. Donc, on a choisi nos ingrédients vraiment avec précision, puis on est content de collaborer avec ces entreprises-là pour avoir des ingrédients de qualité sur nos produits.
Mais vraiment, puis justement, là, j'ai goûté à la pizza aujourd'hui même, avant le podcast, parce que je voulais pouvoir vous donner mon avis détaillé. Et initialement, j'ai l'impression que je gère pas tant bien le gluten. Et j'ai réalisé que quand justement je mangeais des fibres avant ou pendant que je mangeais du gluten, que je mélangeais les deux, que la digestion se passait vraiment mieux. Et là, je vous confirme que j'ai mangé une moitié de pizza à moi toute seule et que ça s'est vraiment bien passé. Donc, c'était délicieux. Justement, c'est une croûte vraiment épaisse. Ça va vraiment vous rappeler les pizzas que vous connaissez non véganes, les pizzas de votre enfance, de votre adolescence, peu importe quand est-ce que vous êtes devenu végane, mais c'est super similaire. Puis par rapport à celle au tofu fumé, ça sent tellement bon. Même que je dirais que j'ai l'impression que ça sent le bacon. Ça sent la pizza au bacon, mais c'est vraiment... En tout cas, je vous conseille vraiment de l'essayer. Les tofu brouillés aussi, c'est vraiment intéressant comme produit parce que oui, on peut en faire à la maison, mais là, le principe d'avoir rajouté de l'ocara là-dedans, c'est super onctueux aussi. J'ai remarqué, c'est une texture super onctueuse. Ça fait vraiment œuf brouillé, là, vraiment.
Oui, c'est ça, les tofu brouillés aussi sont super légers, sont onctueux. Avec l'ocara, on a l'apport en fibres. Avec le tofu, on a aussi un peu de protéines. Même si c'est pas le focus qu'on veut avoir, mais quand même, c'est intéressant pour un produit, par exemple, qu'on veut manger au petit déjeuner, mais c'est super versatile. On peut le mettre dans les sandwichs, dans les burritos. Moi, je fais du riz frit avec ça parce que habituellement, il y a un œuf à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment bon. Puis c'est un peu, celui-là, il est vraiment style maison. Comme si on l'aurait fait nous-mêmes, mais il est déjà prêt. Puis on a 3 façons de le cuire. On peut le mettre directement dans la poêle comme on fait avec des œufs réguliers. Soit on prend le sachet sous vide, on le met dans l'eau chaude, fait qu'on n'a même pas besoin de faire de vaisselle, c'est merveilleux, ça prend 3 minutes, c'est prêt, ou on le transfère dans un bol, puis on le met directement au micro-ondes 1 minute. Donc c'est vraiment bon, super versatile, on a des super bons commentaires, tu sais, les gens ils me disent que c'est très goûteux, ça goûte quand même quelque chose, les autres alternatives aux œufs véganes actuellement sur le marché, c'est quand même plain. C'est fait vraiment pour mettre dans quelque chose, tandis que on pourrait le manger juste comme ça à cuillère, puis ça comble, là. On est vraiment content, ça goûte quelque chose.
Je confirme, c'est vraiment goûteux. C'est juste assez salé, il y a vraiment des saveurs et ça goûte pas. Il n'y a pas l'arrière-goût de tofu, là, que si justement, des fois, on fait du tofu brouillé nous-mêmes, puis on ne sait pas tant comment l'assaisonner, donc ça peut goûter un petit arrière-goût de soya, mais là, honnêtement, ça passe ni vu ni connu, donc je vous conseille vraiment. Et ça me fait quand même penser que, je veux pas, c'est des produits transformés, et il y a vraiment une guerre, là, entre les produits transformés et non transformés, là. C'est, en tout cas, moi, dans ma tête, on devrait manger par plaisir en premier, parce que si on commence à se mettre trop de restrictions, je pense qu'on perd plaisir à manger et c'est peut-être justement à ce moment-là qu'on peut tourner vers des troubles alimentaires. Donc, d'avoir le moins de restrictions possible, mais quand même d'être aligné avec nos valeurs. Donc, j'imagine qu'avec Wisely, vous avez trouvé une formule pour que, oui, c'est un produit transformé, mais ça va quand même avec vos valeurs, que ce soit quand même relativement sain, des ingrédients de qualité, ou si c'est québécois.
Oui, exact. Puis, tu sais, il y a une différence entre transformé et ultra transformé. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la classification Nova, qui est une classification qui a été faite par c'est au Brésil, si je ne me trompe pas. Puis eux, en fait, ils ont catégorisé les aliments, puis ils font vraiment une distinction entre la catégorie transformée versus ultra transformée. La catégorie transformée, en fait, c'est faite à partir des ingrédients qui sont pas transformés, donc des ingrédients qu'on a à la maison, farine, vinaigre, sucre, ces choses-là. Puis la catégorie transformée, dans le fond, c'est prendre ces aliments-là puis les mettre ensemble. Fait que c'est quand même quelque chose qui est sain. Tandis que la catégorie ultra transformée, là, c'est qu'il y a des ajouts d'additifs, de colorants, d'agents de conservation. Nous, on veut vraiment pas aller vers ça. Nous, on va rester dans les aliments transformés. On est dans cette catégorie-là, mais ce qu'on offre aux consommateurs, dans le fond, c'est des produits qui sont prêts à manger. Donc, c'est sûr qu'on est dans la catégorie transformée, mais c'est quand même des aliments qui sont sains, clean. Le tofu brouillé, vous regarderez la liste sur la boîte quand vous allez en trouver en magasin, mais c'est vraiment, tu sais, tofu, boisson de soya qu'on fait nous-mêmes en plus, bio, des légumes, des oignons, de l'okara, puis après ça, c'est des épices, curcuma, tu sais, c'est rien de fou, là. C'est toutes des choses qu'on utiliserait pour le faire nous-mêmes à la maison, ça serait exactement les mêmes ingrédients. C'est juste que nous, on le prépare en usine, puis qui est fait après ça, emballé, conditionné, puis envoyé en magasin.
Puis justement, oui, on pourrait justement cuisiner la pizza à la maison à partir de nos ingrédients, mais c'est le fun d'avoir de quoi d'être déjà tout prêt dans le congélateur, là, on va se le dire. J'adore cuisiner, je suis une foodie, j'adore ça, je cuisine beaucoup, mais il y a des fois là où j'ai juste envie de mettre de quoi dans le four, c'est prêt dans 10 minutes, c'est super simple, le tofu dans le poêle 2 minutes, c'est réglé, donc on va pas se mettre la tête dans le sable, là. Tout le monde achète des produits transformés et c'est justement de pouvoir faire le choix le plus responsable selon aussi nos valeurs et tout. Si on regarde un paquet de ramen, j'ai regardé un paquet de ramen récemment, là, juste le paquet de ramen avec le petit sachet d'épices, là, un petit peu bâtard, là. Il y avait, je pense, 60 ingrédients dans le sac, je comprenais vraiment pas.
Non, c'est fini. Non, nous, on est loin de là, t'sais, on a une dizaine d'ingrédients, quinzaine peut-être pour la pizza, mais c'est rien... Non, on est super sain, santé. C'est sûr que la pizza, on est plus dans les produits qui sont décadents. Ça reste une pizza. T'sais. C'est pas santé, c'est pas une pomme, là. Fait qu'on s'en cachera pas. Le problème, parce que ça, c'est une belle expérience que je peux partager. T'sais, la première pizza qu'on avait lancée, parce que je suis très sévère aussi dans les ingrédients qu'on utilise, parce que pour moi aussi, c'est important d'avoir quelque chose de clean. La première pizza qu'on avait lancée, je voulais tellement pas qu'il y ait de gras, de sel, je voulais que ça soit là, vraiment le sain. Mais c'est tellement santé, pas de fromage, pas de pepperoni, pas rien, là. Tu sais, c'était santé, là. Mais est-ce que c'est ça que les gens veulent quand ils achètent une pizza? Ce produit-là, j'ai fait l'erreur de faire un produit qui répondait à mes besoins et non aux besoins des consommateurs sur le marché. Tu sais, l'ensemble de la masse. Tu sais, moi, j'ai fait une pizza avec de la pulpe, de kale, c'était vert, c'était santé au bout, mais c'est ça que les gens voulaient. On avait quand même des belles ventes, mais je pense pas que avec ça, j'allais avoir un énorme succès. Puis nous, c'est important. Moi, je veux faire des produits qui sont santé, l'équilibre parfait. Santé, mais bon, parce que si j'en vends pas de produits, ben je remplis pas ma mission de sauver les aliments, de sauver de l'okara. Il va quand même s'en aller dans le dépotoir. Si moi, je le récupère pas, on va le jeter. Fait que si je suis capable de faire des produits qui sont bons, qui sont santé, sont abordables, ben on va en vendre, puis là, je vais remplir ma mission de sauver, de réduire le gaspillage alimentaire, puis sauver ces aliments-là, dans le fond. Fait que c'est super important pour moi, vraiment cet équilibre-là, puis la ligne est très fine. C'est difficile quand même d'arriver directement dessus, mais je pense qu'on a réussi avec nos gammes de produits, puis à date, on a des super bons commentaires. Fait que je suis vraiment, vraiment content.
Puis, tu as dit le bon point, équilibre, et c'est aussi une question de, ça prend du temps de développer une entreprise qui va être, entre guillemets, parfaite. Déjà, c'est pas possible d'atteindre la perfection, on le sait, mais ça prend des erreurs, ça prend des échecs, on se relève les manches, puis ensuite, on passe à autre chose. Mais c'est sûr qu'au début, là, justement, vos formules étaient peut-être pas idéales pour le marché, mais vous avez appris de ça, donc je pense qu'il fallait quand même que vous passiez par là pour... Là, je dis vous, mais est-ce que tu es tout seul à la tête de l'entreprise ou as-tu justement un partenaire ou...
Oui, ben, jusqu'à tout récemment, j'étais seul, mais maintenant, je suis avec un partenaire, dans le fond, qui s'appelle Contea. Donc, on est deux, puis on est vraiment complémentaires. Moi, je suis plus développement, marketing, développement d'affaires, développement de produits aussi, voir un peu c'est quoi les potentiels qu'on peut faire, c'est quoi les trous dans le marché en termes de gamme de produits. Puis, il y a vraiment plus le côté qualité, production, donc on se complète super bien, donc on fait une super bonne équipe.
Je pense que c'est assez important, l'entrepreneuriat, d'être bien entouré, donc avoir un partenaire. C'est pas nécessaire, au début, c'est pas toujours facile de trouver la personne avec qui va nous compléter, là, avec qui pouvoir tout partager, là. Mais tu as pu trouver un bon partenaire, ce qui est vraiment important. Et je voulais aussi savoir, à travers justement les dernières années, c'est quoi les autres défis que tu as pu rencontrer, autres que par rapport à l'approvisionnement?
On en a eu plusieurs, je dirais... C'est des défis ou des choses que j'ai pas fait, c'est de pas m'écouter. Ça, c'est classique. Classique, mais c'est vrai, pareil, tu sais, des fois, tu es face à une situation, tu le sais que ça marchera pas. Tu le sais que c'est pas la bonne personne, tu le sais que...
Le gut feeling.
Peu importe, le maudit gut feeling, mais tu mais tu y crois tellement, tu veux tellement que ça marche, puis moi, je fais confiance de nature aux gens, je me dis, les humains sont bons, fait que tu sais, des fois, tu pousses un peu, tu sais, tu dis, ah non, j'écouterai pas ma petite voix sur ce quoi-là, j'y laisse la chance, mais moi, j'ai eu quand même des enjeux par rapport à ça, je m'étais pas écouté, j'ai regretté par la suite, tu sais, ça m'a coûté cher d'erreur, disons, financièrement, là. Fait que ça a été des moins bons coups, disons, que je recommande pas à personne, donc dans les conseils, écoutez-vous, la gang.
Mais sinon, la gang, écoutez-vous, très important, le gut feeling est très puissant.
Ouais, très puissant, il faut s'écouter. Mais sinon, ça a quand même bien été, de façon générale. T'sais, on a eu des enjeux d'approvisionnement, c'est pas mal ça le plus difficile de notre côté qu'on a eu, je te dirais, en termes de défis.
Mais justement, là, tu parlais de... Bon, on parle de gut feeling, puis je pensais pas qu'on allait aller là, mais c'est tellement quelque chose qui... ça m'obsède. J'ai tellement une intuition puissante qu'à tous les jours, là, je... En tout cas, il faut être connecté avec son corps pour être capable de faire ça, là, mais il faut vraiment écouter son intuition, c'est tellement important. Notre corps nous dit énormément de choses, ça parle beaucoup, et quand on se sent en affaires aussi, il faut l'écouter, c'est très important, surtout que l'entreprise, c'est un peu une extension de nous-mêmes, là, donc si on ne se respecte pas là-dedans, qu'on ne s'écoute pas, ça risque de ne pas aller dans la bonne direction. Puis je me demandais, est-ce que des fois, il y a des moments où tu aurais dû écouter certaines personnes plutôt que d'autres ou initialement, tu aurais juste dû t'écouter toi-même et ça aurait été mieux en fait? Là?
Non, c'est ça. Souvent, on va chercher des... Tu sais, on essaie de s'entourer, d'aller chercher des conseils de gens qui ont fait le chemin avant nous. Je dirais, en tout cas, à date, là, moi, j'ai toujours été mieux servi par mon gut feeling que par les autres parce que veux pas... C'est pas eux qui sont dans le day-to-day, c'est pas eux qui vont gérer l'après. C'est difficile pour quelqu'un de comprendre à 100% ta réalité quand t'es pas dedans à chaque jour. Fait que, tu sais, souvent, moi, justement, je faisais cette erreur-là d'aller chercher conseil puis d'écouter une personne X, puis c'est pas pour mal faire, c'est juste que je pense qu'ils comprenaient pas nécessairement le contexte. Puis de pas m'avoir écouté moi, j'ai priorisé, en fait, les conseils de quelqu'un, puis au final, ben, j'avais peut-être raison, tu sais. Mais c'est quand même bon de se challenger. Moi, je pense que l'échange d'idées va nous permettre de restructurer notre pensée en arrière. Fait que souvent, tu sais, en parlant à quelqu'un, je fais comme, tu sais, t'arrives avec un problème, tu parles à la personne, puis en l'expliquant, tu fais, ah, ben, si je fais ça, finalement, ça marcherait. Fait que des fois, la personne n'a même pas besoin de te le dire. La solution, tu l'as déjà trouvée. Fait que de pas s'empêcher d'en parler. Parce que il y a quand même du monde qui ont fait le chemin avant nous, puis il faut partager ses expériences. Mais il faut quand même s'écouter en arrière. T'sais, je pense que si on fait quelque chose à contre-cœur, c'est peut-être pas la bonne stratégie.
encore là, c'est une question d'équilibre, c'est de, oui, écouter les gens, mais c'est pas parce qu'on écoute le conseil de quelqu'un qu'on est obligé de tout prendre ce que la personne nous a dit. Là, on prend ce qu'on pense qui est bon pour nous, qu'on l'applique à notre situation, parce qu'encore là, c'est des situations qui peuvent être complètement différentes. Il y a quand même certaines notions de base qu'il faut respecter. Par exemple, justement, de respecter les besoins des consommateurs. Si on sort un produit qui ne correspond pas du tout aux besoins, ça se peut fort bien que ça ne fonctionne pas à long terme. Donc, il y a quand même des notions de base, surtout en marketing, là. Mais je pense que c'est super important de s'écouter. C'est un vraiment beau conseil. Puis sinon, ça sort complètement du sujet, mais c'est parce que ça m'a tellement marqué et c'est par rapport au branding, parce que, en tout cas, là, vous allez voir les produits là, sur Internet, vous allez voir le site Internet, justement, Instagram et tout ça. C'est tellement beau, c'est accrocheur. C'est vraiment le genre de produit que tu vois à l'épicerie et qui te saute d'en face, là. Donc, comment que ça se passe, cette partie-là de faire son branding? Parce que j'imagine que tu ne l'as pas fait seul.
Non. Dans le fond, ben moi, c'est mon dada, les emballages. J'adore ça, faire ça.
Ah ouais, OK.
Ouais. Je suis vraiment très investi dans les emballages. En fait, c'est la troisième mouture de notre branding. On a eu un branding version 1 qui a évolué en version 2. Puis là, on arrive vraiment avec la dernière version. Ça ne changera plus après, là. Mais c'est un super beau processus. Dans le fond, tu sais, on regarde qu'est-ce que c'est le marché, comment on peut se différencier en termes de couleur, en termes de texture d'emballage, si c'est applicable dans certains cas. Puis après, ben moi, ce que je fais souvent, c'est une coquille. Fait qu'un peu le look and feel qu'on veut en termes de positionnement de marque. Est-ce que c'est une marque haut de gamme? Est-ce que c'est une marque funny? Quel genre de ton on veut y donner à cette marque-là? Puis après ça, ben moi, ce que je fais habituellement, c'est que je travaille avec une graphiste qui va m'aider en fait à peaufiner ça vraiment de façon artistique, là, graphiquement, visuellement bien, parce que moi, je me débrouille, mais je suis pas parfait pour faire des formes ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment un super le fun processus, puis de travailler, parce que dans le fond, le brand va être la voix de la marque par la suite. Comme tu disais tantôt, c'est ce qui va accrocher l'œil en magasin. Puis ça fait partie des conseils que je dis souvent aux gens. Il faut investir en branding. C'est souvent la dépense qu'on veut pas faire. Même moi, là, à chaque fois, je suis comme, eh mon Dieu, ça a coûté cher, tu sais. Mais il faut le faire parce que ça coûte encore plus cher de changer après. Puis si le produit est pas beau, c'est dommage, mais il se vendra pas. Ou ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile d'accrocher, surtout dans le contexte actuel où il y a des tonnes de nouveaux produits à chaque semaine, puis il y a de la nouveauté, puis des couleurs flyées, puis il y a plein d'affaires. C'est difficile d'aller chercher le consommateur. Au moins, si c'est appealing, pour prendre l'expression anglaise, mais au moins, on va aller chercher l'essai. On va favoriser l'essai du produit, qui est la première étape. La deuxième étape, ben, c'est si le client l'a aimé ou le consommateur, il va le racheter par la suite. Fait que non, ça a été un super beau processus, vraiment. Je suis super fier des nouveaux emballages qui vont sortir là, en magasin.
C'est vraiment juste parfait. Justement, vu que j'ai une bonne intuition aussi, j'ai comme une intuition par rapport au look des choses. Comme quand il y a quelque chose qui me dérange, ça vient vraiment gâcher toute mon expérience. On dirait que je commence, ça marche pas, ça fit pas, il manque quelque chose ou il y a de quoi de trop. Mais là, votre branding est vraiment juste parfait. Bon, c'est accrocheur, comme je le disais. Ça va attirer l'œil à l'épicerie. Donc, les gens vont vouloir essayer le produit, que les gens soient vegan ou pas. Parce qu'on dirait que dans l'alimentation vegan, on pourrait tenter d'y aller avec un look vert, de montrer à quel point que c'est vegan. Mais je pense que ça, on va attirer l'œil de tout le monde, considérant qu'on est vraiment une petite proportion de gens vegans dans le monde, là, on est mieux d'y aller avec de quoi de plus accrocheur pour tout le monde. Puis je trouve que c'est très aussi ludique. C'est, en tout cas, vous allez voir là, sur cet internet, là, c'est vraiment coloré. J'aime beaucoup ça. Ouais. Et moi-même, pour l'entreprise que je veux bâtir, ben c'est sûr et certain que je ne ferais pas mon branding tout seul. Là. C'est sûr et certain. Oui, ça coûte cher au début. Encore là, ça coûte cher. Oui puis non, là, c'est pas non plus 50 000 $ là.
Il y a moyen de s'arranger. Il y a moyen de s'arranger avec quoi si peu.
Ouais, c'est ça. Il y a moyen de s'arranger, là, c'est sûr et certain. Mais je pense que si on n'a pas une base en graphisme, qu'on ne travaille pas là-dedans, on est vraiment mieux de le faire par quelqu'un d'autre parce que c'est une des plus grosses parties de l'entreprise, c'est justement qu'est-ce que les gens voient. Puis c'est aussi le branding sur les réseaux sociaux, là. C'est pas juste par rapport à l'emballage, mais aussi qu'est-ce qu'on dégage quand on est sur les réseaux sociaux ou quand on fait des publicités, peu importe où, là, que ce soit à la radio ou à la télé, peu importe. Il faut qu'on ait aussi des valeurs qui soient claires, une mission qui est accrochante. Ce serait quoi les valeurs principales là, que tu pourrais décrire de Wisely?
Oui, ben nous, notre mission, en fait, c'est d'apporter plus de bien à votre santé et à celle de la planète. Donc, nous, on réduit, ce qu'on dit, c'est qu'on réduit le gaspillage alimentaire en transformant les aliments injustement délaissés. Fait que c'est des aliments qui sont bons, mais qui sont rejetés parce que trop compliqué. Ça ne nous tente pas. Fait que nous, on va les récupérer puis on va les sauver. Nos valeurs, c'est vraiment l'innovation, la réduction du gaspillage alimentaire, l'environnement. Puis on veut que ça soit, moi je dis broad, on veut que ça soit le fun. T'sais. Je veux pas que ça soit un discours moralisateur de hey, tu gaspilles chez toi des aliments. Non, non, c'est viens avec nous, ensemble, on va faire une différence. C'est vraiment ça le discours qu'on veut avoir. Fait que vraiment quelque chose de funny, c'est ce qu'on retrouve un peu, sans que ça soit too much non plus. Sur nos emballages avec les choix de couleurs, par exemple, ça va donner un ton un peu plus ludique, plus le fun. Puis tranche de vie. Là. Mais à l'époque, quand j'avais parti Wisely, ça s'appelait Wiser.
Puis là, ça veut dire quoi, tout court? Justement, Wiser, pas bon en anglais.
Wiser, ça veut dire, tu sais, quelque chose d'intelligent, en théorie. Ah, ouais, mais, okay. Mais je trouvais que Wiser, par rapport à Wisely, justement, Wiser faisait beaucoup plus méchant, tu sais, tandis que Wisely, c'est bubbly. Fait que c'est pour ça que même j'avais dit, ah oh non, finalement, je vais aller vers Wisely. Ça fait, on dirait que tu dis Wisely, t'as un sourire dans la bouche. Là,
dans ouais, ta... Wisely, ça fait doux, ça fait... Ben, ludique, comme tu dis, bubbly, hein, j'aime ça. C'est vrai, Wiser, on dirait que j'avais d'autres idées dans la tête. J'aurais pas du tout pensé non plus à une brand d'alimentation. Là. On dirait que c'est pas du tout ça qui me venait en tête. Donc,
ouais.
C'est vraiment, c'est bon, j'aime
fait
ça.
Oui, fait que c'est ça un peu notre mission, nos valeurs. Puis, pour revenir sur l'emballage, c'est difficile de, justement de transposer ça sur les emballages parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de règles, surtout en alimentation, tu sais. Quelqu'un qui fait des jouets ou un autre type de produit, c'est peut-être moins compliqué. Dans l'alimentaire, il y a beaucoup de règles. On peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas mettre ce qu'on veut n'importe où. Fait qu'il faut quand même respecter les exigences par rapport à ça. Fait que ça amène quand même une petite complication. C'est beaucoup de travail faire des emballages. Ça a l'air bien fun. Ben, ça prend 2 minutes, mais c'est quand même plusieurs semaines de travail en arrière.
C'est pour ça qu'il faut pas faire ça tout seul parce que, en alimentation, bon, en tout cas, pour que vous le sachiez, les gens qui nous écoutent, là, mais juste par rapport au tableau des valeurs nutritives, il y a des règles, que ce soit la grosseur de la police, le type de police, la place que ça prend sur l'emballage, il y a vraiment plein de détails. Le type d'étiquette, en tout cas, c'est plus compliqué qu'on pense. Tandis que quand on fait affaire avec une graphiste qui sait comment ça fonctionne, qui connaît les réglementations, et aussi faire affaire avec une nutritionniste pour les tableaux de valeurs nutritives, ben on s'enlève un petit peu aussi cette charge mentale-là de devoir gérer tout ça. Ces personnes-là, c'est leur job. Donc, on s'enlève ça des épaules, puis on se concentre sur nous, nos forces, nous, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Je pense que c'est une bonne stratégie aussi en début de pouvoir déléguer des choses comme ça qui seraient vraiment trop time-consuming.
Oui, puis c'est des éléments légaux. Fait, comme tu dis, il faut s'entourer, il faut que ça soit bien fait, parce qu'après, on peut avoir des petits pépins là, si on ne respecte pas les exigences par rapport à ça. Les valeurs nutritives aussi, c'est super important. Il faut que ça soit vrai, parce que si il y a une erreur qui est faite, ben moi, j'achète le produit, je vois que 5 grammes de fibres, 11% de sodium, par exemple. Si dans les faits, c'est 20%, ben je l'aurais peut-être pas acheté. Fait, on veut pas faire de la publicité mensongère là, par rapport à ça. Fait que c'est super important.
Mais est-ce que ça se peut qu'un produit en épicerie ait pas les bonnes valeurs nutritives, mais comme pas du tout? Parce que ça m'est déjà arrivé de voir des emballages puis des tableaux que je trouvais que ça faisait pas particulièrement de sens. Mais je ne sais pas à quel point, justement, c'est bien vérifié avant de rentrer en épicerie, là.
Ben, il y a un pourcentage qui est accepté parce que, tu sais, chaque produit peut varier un petit peu, mais ça, c'est normal. Ce qui est peut-être confondant pour les gens, c'est que souvent, on joue avec les portions. Tu sais, le tableau est fait pour une portion. La portion que, si exemple, tu prends un muffin de 100 grammes, par exemple, ben ça va pas être le même tableau que si c'est une demi-portion de 50 grammes. Fait que c'est là que ça peut peut-être porter à confusion sur certains types de produits, mais chaque type de produit a une portion de référence, ça s'appelle. Fait que, par exemple, la pizza, la portion de référence, c'est X, ben, il faut être le plus près possible de ça en termes de portion pour la déclaration du tableau des valeurs nutritives. Je sais pas si c'est clair, là.
Ouais, c'est clair.
Fait que, par exemple, si, exemple, j'ai une tarte devant moi, puis la portion de référence qui est dictée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, c'est 100 grammes qui représente un quart de tarte. Ben moi, ça veut dire que sur mon emballage de tarte, je devrais dire « voici mon tableau pour un quart qui équivaut à 100 grammes ». Je peux pas dire un huitième de pointe de tarte parce que ma tarte est full calories puis je veux montrer le moins de calories possible. Fait que c'est là que des fois, puis ça on le voit, je le vois souvent, il y en a qui trichent. T'sais, exemple, si la portion de référence c'est 100 grammes, ils vont mettre 50 parce que ça a l'air bien plus clean en termes de sucre, de sel, si je mets la moitié de la portion. Fait que ça, c'est peut-être un petit peu tricky. Fait qu'il faut faire attention, faut vivre. Ou c'est les gens, ils ne savent pas. Il faut faire attention, il faut vraiment aller vérifier les portions de référence sur le site de l'agence canadienne.
Ah oui, vraiment, vraiment. Puis mais là, probablement, vous allez être dans quelle épicerie exactement? Est-ce que ça va être vraiment IGA, Métro, Maxi ou c'est juste dans un des supermarchés? Hein?
Oui, on va être disponible chez IGA, on va être disponible chez Métro, on va être disponible chez Avril et les gros indépendants, là, Tau, etc., La Moisson, Boîte à grains, on est en discussion avec eux. Il y en a qui sont confirmés, il y en a d'autres que non, mais ça, graduellement, on va rentrer pas mal partout. Dans les grandes chaînes, c'est déjà confirmé en date du jour, donc on est super contents. Fait que ça va être super le fun parce que vous ne voulez pas, c'est plusieurs centaines de magasins partout au Québec qui vont avoir nos produits. Donc, on veut être le plus disponible possible. Quand on habite à Montréal, tu sais, souvent à Montréal, ben c'est très accessible pour les véganes, il y a plein de choses, mais on veut être aussi disponible pour les gens qui habitent à Saint-Hyacinthe ou à Chicoutimi ou partout, en fait, sur le territoire, puis pas priver ces gens-là parce que ben, les gens qui recherchent des alternatives vegan ou plus santé, ben il y en a partout. Donc, dans le fond, on essaie de vraiment d'être le plus disponible possible.
Non, mais c'est fantastique. Et je ne sais pas si tu vas pas répondre à cette question-là, ça vient de me popper dans la tête. Souvent, je vois que les entreprises vont initialement au IGA Métro en premier et pas vraiment Maxi, Super C, tout ça. Est-ce que c'est plus compliqué de rentrer dans ces épiceries-là?
Oui, c'est plus compliqué. L'Oblast, c'est quand même plus complexe. C'est faisable. C'est sûr aussi, il y a toujours... Je parle pas nécessairement pour mon cas, mais pour certaines entreprises avec qui j'ai déjà travaillé aussi à l'époque, c'est sûr qu'arriver dans un maxi, c'est des gros volumes. Fait qu'il faut être capable de soutenir. Moi, c'est notre priorité chez Wisely. Puis je pense, je peux parler pour tous les entrepreneurs en alimentaire. On veut pas être BO, là. On veut pas être back order. Je veux pas que mon produit ne soit pas disponible parce que je suis pas capable de suffire à la demande. Fait qu'il faut gérer aussi sa croissance en fonction de ce qu'on est capable de produire. Puis souvent, ben les maxi, l'Oblast, c'est des listings nationaux, ben c'est partout au Canada, ben là, il faut que tu sois capable de suivre la machine. Parce que ce que les gens, ce que les détaillants veulent pas, puis les entrepreneurs non plus, c'est de lister des produits, rentrer en magasin, puis pas fournir. Parce que si tu fournis pas, ben à ce moment-là, ben ton produit, ils vont l'enlever, ils vont donner la place à quelqu'un d'autre. Fait que tu perds ta place, ça fait pas vraiment bonne relation, ni bonne presse. Donc, on essaie d'éviter ça le plus possible. C'est sûr que tu sais les chaînes qui sont établies au Québec, c'est, je veux pas dire que c'est facile, c'est quand même complexe, mais c'est plus simple de travailler avec eux en premier, puis après ça, d'aller voir un Loblaws de ce monde à Toronto, puis peut-être lister les produits là-bas.
Ah, je savais tellement pas ce point-là. C'est vraiment pertinent parce que c'est, par exemple, comme Gusta, ça a pris du temps avant qu'il arrive dans les maxis, mais là, on l'envoie, là, que ça l'arrive. Puis c'est une super nouvelle parce que personnellement, je vais plus dans les maxis Super C parce que ça coûte moins cher. Mais ouais. Les options végétaliennes, c'est de mieux en mieux, mais c'est sûr que c'est bien plus haut au IGA puis au métro. Hein. Donc, j'espère à un moment donné que justement les entreprises vont pouvoir aller de plus en plus dans ces épiceries-là qui coûtent moins cher, qui sont justement plus pour la classe moyenne.
Oui, bien c'est sûr que ça va être faisable. C'est pas impossible. Là. On le fait, Vegnature, ils sont rentrés récemment justement chez Maxi. Oui. Fait que c'est possible de le faire. Mais c'est sûr aussi, si on se remet 3-4 ans, je pense que comme un maxi de ce monde n'était peut-être pas aussi ouvert à avoir autant de produits de santé naturelle, on va dire, des trucs véganes ou plus santé en épicerie. Maintenant, ils ont vraiment dédié une section, fait que ça a beaucoup changé. Si la demande est là, les consommateurs en achètent, c'est sûr qu'ils vont donner plus de place à ce genre de produits-là. Fait que je pense qu'il y a un gros changement aussi au niveau des habitudes de consommation qui aide aussi à pousser ces entreprises-là ou ces produits-là chez Maxi, chez Loblast, chez Provigo. Puis même chez IGA, chez Métro, encore une fois, il y a 20 ans, il n'y avait pas la moitié, même le quart de ce qu'on retrouve maintenant en termes d'offres végétales dans ces chaînes-là. T'sais.
Clairement, puis tu l'avais dit au début du podcast, mais c'est vraiment important que si vous voulez justement que les produits, par exemple, de Wisely Food soient en épicerie, bien de le demander à l'épicerie au gérant, parce que c'est une question de l'offre et la demande. Là. Plus qu'il va y avoir une demande, plus que les produits vont pouvoir être disponibles. Là, ça va toujours fonctionner comme ça. C'est sûr qu'au début, c'est pas toujours facile d'être partout, là, puis il faut comprendre vraiment la réalité derrière l'entreprise, là. C'est facile de critiquer et de, justement, se demander pourquoi que tel produit, pourquoi il est pas disponible, j'habite loin, c'est compliqué, mais il faut demander. Il faut vraiment demander, puis il faut être vocal par rapport à ça, autant même sur les médias sociaux, de parler des entreprises qu'on aime, puis de les faire connaître. Surtout, là, si tu nous... Ben, veux pas... on va considérer Wisely Food comme une nouvelle entreprise parce que c'est des nouveaux produits en ce moment. Donc, c'est, encouragez-les. Je vous conseille vraiment de le faire.
Ouais, c'est nouveau, puis c'est vraiment important. Tu sais, quand on fait un achat, peu importe si en alimentaire ou ailleurs, dans le fond, c'est un vote qu'on fait pour ce produit-là qu'on veut acheter. C'est de prouver qu'il y a un attrait, puis que ce produit-là ou cet aliment-là, il y a sa place en épicerie. Fait que c'est super important. S'il n'est pas là, que ce soit Wisely ou d'autres produits que vous aimez, demandez-le, parce que si la demande est là, ils vont le rentrer, ça va justifier le risque aussi, parce que les gens, tu sais, il faut se mettre à la place des détaillants, ils veulent pas de perte, ils veulent pas perdre de l'argent ou perdre des produits, on parle de gaspillage, justement. Fait que, tu sais, des fois, ça arrive souvent, ils rentrent des nouvelles gammes de produits, finalement, personne n'en achète. Ben, c'est une perte, tu sais, tout le monde a perdu là-dedans. Fait que c'est dommage. Fait que si les gens le demandent, ben, ils vont dire, ah, ben, Colin, c'est un produit que si j'essaie, je prends puis je donne une place en tablette, ben, il va être vendu. T'sais. Fait que c'est vraiment pertinent de, comme tu dis, d'être vocal par rapport à ça.
Ben, vraiment. Ben, en tout cas, c'est ça que je fais sur les réseaux sociaux. Là, je parle tout le temps des découvertes que je fais dans les entreprises, surtout québécoises. Des fois, c'est canadien ou même américain, mais le principal, j'aime vraiment ça encourager Québécois parce que, ben, on est au Québec. Et il y a tellement une belle offre de produits végétaliens qui peut se développer de plus en plus. Donc, ça vaut la peine d'encourager les entreprises d'ici. J'avais un point à aborder par rapport justement au prix. Je ne connais pas les prix encore des produits de Wisely, mais je sais qu'on en avait parlé un petit peu que c'est pas nécessaire. C'est ça. Ça peut être un enjeu pour certaines personnes. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle, qu'on comprenne un peu la réalité de pourquoi qu'une entreprise doit mettre ses prix un peu plus haut, surtout au début, là.
Oui, bien en fait, le pricing, c'est ça, c'est tout un exercice aussi je vous dirais que tout bon entrepreneur doit faire. En tout cas, je vous recommande, si vous n'êtes pas outillé, vous n'êtes pas à l'aise dans Excel ou dans les structures de prix, entourez-vous de gens qui vont pouvoir vous aider parce que c'est super important. En termes de pricing, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on vend à un distributeur qui, lui, va revendre au magasin, qui, lui, va vous revendre à vous. Fait qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans la chaîne d'alimentation, la chaîne de distribution. Ce qui fait que nous, c'est un peu les gens d'entrepreneurs dans l'agroalimentaire le savent. Tu sais, des fois, les gens critiquent les prix en magasin, mais ce qu'il faut savoir, c'est pas ce montant-là que nous, on a dans nos poches. C'est vraiment pas ça. Je vous dirais, c'est souvent le fournisseur qui est pénalisé dans la chaîne, c'est souvent nous, les producteurs, qui a le moins dans l'équation, en fait. Mais en termes de pricing, nous, on est quand même à l'aise. Moi, je vous dirais, dans les pricing, on a une stratégie qui est un petit peu différente. Par exemple, pour la pizza, on offre beaucoup plus de valeur pour un prix qui est similaire au gramme, par exemple. Mmh. Les pizzas vegan, on est autour de 300-400 grammes pour les pizzas. Nous, on est à, vous me trompez, 650. 650 grammes.
Oh, wow!
Ça va être autour de 11,99 tout dépendant du magasin dans lequel vous allez aller. Mais si on regarde au gramme, ben on est vraiment moins cher en fait. Fait qu'on offre le meilleur rapport qualité-prix. Fait qu'on a une stratégie un petit peu différente. On voulait pas vraiment se baser sur le prix, mais plus sur la valeur. Fait que plus pour ton argent. T'sais, tout le monde aime ça aller chez Costco, c'est un peu le même principe. C'est que t'en as pour ton argent, on est heureux, on part, on a notre souper. Puis moi, je voulais aussi que ça soit des bonnes portions, parce que j'aime pas ça, tu sais, acheter des trucs puis que t'en manges juste une fois puis il y en a plus, puis tu te dis, mon Dieu, ça m'a coûté 8$ puis j'ai rien. Fait que la pizza est plus grande un petit peu que ce qu'on retrouve. Fait qu'en termes de pricing, on a une stratégie d'alignement qu'on appelle. Fait qu'on est dans la game. C'est-à-dire, comparé au comparable, on n'est pas toujours plus cher, on n'est pas toujours moins cher, on est vraiment dedans. Fait que comparativement au comparable, on est exactement dans les mêmes niveaux au niveau du pricing. Pour le tofu brouillé, même chose, si on regarde, pour pas les nommer, ceux qui existent, qui sont gros, américains en ce moment, on est pas mal dans la game aussi en termes de prix. Fait qu'on est super content d'arriver avec ces prix-là. C'est sûr que c'est des produits transformés. Fait que si je le fais moi-même de A à Z, ça va me coûter moins cher. Mais ça, c'est la même chose pour tous les produits transformés en épicerie. Si j'achète mon bloc de tofu, je fais moi-même mon tofu brouillé. Pour le même prix, je vais probablement avoir une plus grosse quantité. Par contre, si moi, ce que je recherche, c'est la commodité, le temps où j'ai pas les talents ou la volonté de cuisiner, ben à ce moment-là, le tofu brouillé qu'on offre est super intéressant pour ces gens-là. Fait que je pense que c'est l'équilibre, tu sais. Moi, j'encourage les gens à le faire aussi eux-mêmes. Mais de temps en temps, ça peut être un bon dépanneur ou de l'acheter parce que, bon, on contribue aussi à l'économie circulaire, chose que les gens pourraient pas nécessairement faire avec le carreau à la maison, par exemple. Fait que, en termes de pricing, on est dedans. Moi, je suis super content parce que ça a été, je suis fier de le dire, ça a été quand même un gros travail de stratégie, négocier les intrants, puis avec la COVID en plus, je suis sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Nous, on avait fait quand même nos structures vraiment en amont, ça fait longtemps. tous les ingrédients sont en train d'augmenter dans le marché.
Ouais, c'est vrai.
À cause du transport, à cause qu'il y a des ingrédients qui sont importés, plein d'affaires. Fait que là, en ce moment, c'est nous qui absorbons ces hausses-là parce que moi, je les repasse pas aux consommateurs. Fait que nos marges sont encore plus réduites, déjà qui sont pas énormes. Dans l'alimentaire, c'est vraiment pas des marges exceptionnelles, là. Fait que je le prends de mon bord, puis j'ai espoir que si on a du volume qui va se construire, qu'on puisse acheter plus d'ingrédients, avoir des meilleurs prix, puis éventuellement, moi j'aimerais même rebaisser les prix éventuellement si on est capable d'avoir des prix qui sont intéressants. Ça fait partie d'un peu de ce qu'on veut offrir. Si tout le monde contribue, je veux le redistribuer cette économie-là, disons. Fait qu'on verra.
Ben oui, c'est ça. On va laisser le temps de faire les choses parce que moi, je vous confirme que la pizza, c'est une pizza pour 4 personnes, vraiment. Là, je l'ai mangé la moitié juste parce que c'était comme une nouveauté puis c'était trop excitant, là. Mais honnêtement, c'était trop, là. J'aurais vraiment pu en manger que le corps, là.
Ouais, ben c'est les commentaires qu'on a eus. Les gens la trouvent parce qu'elle est très fibreuse. Hein. C'est 6 grammes de fibres par portion. Justement pour un corps. Fait que les gens disent que c'est très comblant. T'sais, c'est pas lourd, mais c'est comblant. On se sent plein après avoir mangé un corps, une demi. Moi, je mangerais une demi aussi. Là. Fait que, mais au moins,
c'est trop bonne.
Ça fait 2 à 4 portions, tout dépendant. T'sais, on veut-tu un corps? On mange avec une salade ou on mange juste ça toute seule? Fait que c'est vraiment le fun. Là.
Puis comparativement aux pizzas du marché qui sont véganes, ces pizzas-là sont tellement minces qu'on en mange juste une complète là, ouais, pour une personne. Ouais. Puis c'est le même prix. Là. Donc, non, c'est vraiment, le prix est avantageux. Puis, pour vulgariser un petit peu, pour que les gens comprennent comment ça fonctionne de mettre un prix sur un produit, là, j'y vais vraiment en vulgarisant, là, grosso modo. Mais si ta pizza te coûte, je sais pas, là, 6 $ à produire, fait que les coûts, c'est autant les ingrédients, la main-d'œuvre, l'équipement, tout ça, c'est niaiseux, mais même le local, la cuisine où tu fais ta pizza, ben tout ça, ça rentre dans les coûts. Hein. Puis que tu la vends 10 $, ben tu fais 4 $ de profit, mais encore là, c'est pas vraiment du profit parce que c'est une partie aussi que tu vas réinvestir dans d'autres produits. Donc, on fait pas vraiment d'argent au début, surtout sur la vente de produits, surtout que les coûts sont vraiment élevés quand tu n'en vends pas beaucoup. C'est plus à long terme, justement, que ça commence à valoir la peine parce que la marge de profit que tu fais, ben il y en a une partie que tu peux garder pour toi pour t'en faire justement un salaire. Mais les entreprises, au début, ils font que réinvestir pour d'autres produits, là.
Non, ben c'est ça. Ben si ton produit te coûte 6 $, je vous le dis, il va coûter à peu près 15 en magasin.
C'est fou, c'est ça
la game, parce qu'il y a tellement d'intermédiaires. C'est normal aussi, c'est souvent on critique cette chaîne-là, mais c'est pas toujours possible de vendre direct au consommateur parce que veut pas, c'est normal que le distributeur se prenne une marge sur les produits parce que lui, il apporte du point A au point B. Il s'assure qu'il soit disponible, il s'assure que la chaîne de froid est respectée. Il y a quand même plein de choses qui l'entourent. Puis le détaillant, même chose. Le détaillant, c'est sûr qu'il se prend une marge un peu plus grande. Mais il y a 100 employés en magasin qui placent des produits en tablette, qui s'assurent que les produits soient visibles, qui répondent aux questions des consommateurs. Fait que c'est normal aussi qu'eux aussi, ils veulent une partie des profits de la vente du produit final. Fait que, je veux dire, tout se tient. C'est sûr que quand on peut couper les intermédiaires, ben c'est le consommateur qui en bénéficie. Fait que le moins il y en a, le mieux pour le consommateur. Puis c'est sûr que nous, on va essayer de préconiser ça aussi. C'est sûr que, tu sais, on le voit de plus en plus, les ventes en ligne, ça aide à ça, à vendre directement au consommateur, puis de pas avoir d'intermédiaire. C'est du super beau modèle.
J'allais justement dire ça, effectivement, de vendre en ligne, mais oui, ça peut être pratique, comme par exemple, ils vivent le fait, ils vendent aussi en ligne, autant en ligne qu'en épicerie, là. Puis on va peut-être justement plus tenter de commander en ligne parce qu'ils vont faire, par exemple, des rabais ou quoi que ce soit, parce que pour eux, peut-être que ça va leur permettre d'avoir, que ça coûte moins cher au final, là, de pouvoir vendre en ligne. Mais en même temps, il y a d'autres coûts qui sont reliés à la vente en ligne. Donc, c'est chaque entreprise fait les décisions comme elle le souhaite, mais il faut comprendre que les prix sont raisonnables. Là. Les prix sont justifiés. Bon, peut-être qu'il y a des entreprises que c'est pas justifié, là, on le sait pas trop, hein. Mais en général, surtout dans l'alimentation végétalienne, considérant que ça, c'est quand même encore relativement nouveau, là. Je suis devenue végane il y a peut-être 5-6 ans de ça, puis ça fait peut-être 2-3 ans que c'est vraiment hot, la game, là.
Ouais, puis tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a toujours une question de qualité aussi là-dedans, dans le sens que
ben oui.
Il peut, tu sais, les pizzas à 2 $, il y en a, mais sincèrement, moi, je mangerais pas ça. Après, c'est une question aussi de qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre assiette. Puis après, ça appartient à chaque personne, puis moi, je respecte ça. Mais les prix, c'est ça. Faut plus c'est cher, en théorie, plus c'est de qualité. Puis, exemple, si on va aller vers du bio, ben c'est sûr, c'est plus cher le bio actuellement, mais ça respecte l'environnement, ça respecte les ressources. C'est meilleur pour la santé, pas d'usage de pesticides, donc moins de potentiel de récolte. Fait que c'est sûr que c'est plus cher. En tout cas, il y a plein de choses qui jouent là-dedans, mais ça appartient à chaque personne. Mais non, nous, on est super fiers de la gamme de produits qu'on a, avec les prix qu'on a. Je pense que je peux parler encore une fois pour tout le monde dans l'alimentaire, dans le créneau, on va dire vegan. Je pense que tout le monde s'ajuste à part, puis ils font le plus sainement possible pour que ça soit bénéfique pour tout le monde, dans le fond. T'sais, on travaille super fort. C'est vraiment, c'est quand même pas si simple que ça, là, faire des produits alimentaires. On travaille des longues heures. Moi, je pars le matin, je me lève à 5 heures, je travaille, puis je reviens chez nous à 10 heures, puis je travaille. Puis j'ai travaillé toute la journée en usine, tu sais, c'est quand même, c'est rough. C'est dur à plusieurs niveaux, mais on le fait pour justement nourrir les gens, puis d'apporter ce bonheur-là, puis ce bien-là sur le, ben, autant dans la santé comme notre mission et pour celle de la planète dans notre cas avec la réduction du gaspillage.
Donc, t'es impliqué dans la production directement, là. Donc,
au
c'est
début,
pas encore.
On fait tout. Oui, on fait tout. Ouais, on fait autant. C'est ça, tu sais, c'est pour ça que c'est difficile au début parce que, ben, il y a tellement de travail à faire juste pour les emballages, comme on parlait, développement des ventes, etc. Mais il faut aussi faire la prod. Puis en plus, on a en pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Fait qu'il faut encore plus s'impliquer que peut-être habituellement on ferait. Mm. Et, c'est pas simple, là. Il y a quand même juste 24 heures dans une journée. Il faut dormir au moins un petit 5 heures là-dedans. Fait que ça fait que un petit 5 heures, puis moi je travaille les fins de semaine aussi, fait que c'est beaucoup de sacrifices, mais je pense que tout entrepreneur, peu importe le domaine, il va passer au travers. C'est pour ça que tantôt je disais, c'est important d'être passionné, parce que il faut aimer ce qu'on fait, sinon on va être fou, là. C'est impossible de tenir autant d'années au début, jusqu'à temps que, tu sais, on a un certain volume, puis qu'on peut s'entourer, puis une usine automatisée, puis toute la patente qui vient avec. Ben, au début, c'est beaucoup de sacrifices, puis il faut être prêt à les faire, ces sacrifices-là. Fait que si on le fait pour l'argent, ça dure pas. Si on le fait pour les bonnes raisons, comme moi, c'est vraiment, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup pour réduire le gaspillage, ben, je pense que ça tient. T'sais, ça va nous porter à long terme, parce que si c'est pour les sous, on fait pas de sous, là. Ça marchera pas, là.
Exactement. Puis j'imagine que quand tu te lèves le matin, t'es motivé, t'es satisfait, tu sens que tu t'accomplis dans ce que tu fais. Peut-être que t'es un petit peu fatigué si tu dors juste 5 heures par nuit, là. Mais j'imagine.
Il y a des semaines plus dures que d'autres. Mais, tu sais, moi, je travaille pas. Je vais jamais travailler. Tu sais, dans le sens que je m'en vais contribuer à un projet qui est plus grand que moi, même. Tu sais, pour moi, c'est pas du travail. J'adore ça. Tu sais, je ferais pas d'autre chose, en fait. Là.
Puis tu fais qu'est-ce que t'aimes dans la vie. Tu te lèves le matin avec le désir de changer quelque chose dans la vie des gens. En tout cas, c'est une belle mission. C'est vraiment tout en ton honneur, tout en votre honneur à l'équipe. Même si vous êtes juste deux, en fait, là, au début. Est-ce que vous avez déjà des employés? Comment ça fonctionne?
Oui, on en a. On est une petite équipe de 7, à peu près, au total.
Quand même! Ah, c'est bon, ouais.
Ça prend des bras, là, pour faire tout ça.
Ben oui, là, je me disais, à deux, vous êtes vraiment bons, là, clairement,
Non, 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 on a quand même des gens qui travaillent avec nous en usine. T'sais, moi, j'y vais, sporadiquement, de temps en temps, je dirais peut-être quelques heures par jour, mais je suis pas là à toute la journée parce qu'on a d'autres choses à faire.
Oui, c'est ça.
Mais l'équipe est là, puis on est super contents de les avoir aussi, là. Ils sont super engagés, on a une belle petite équipe, puis ça fait toute la différence aussi, avoir un petit noyau fort. Ça va bien, Adap.
Ah, c'est super. Et justement, si tu avais des conseils à donner à une personne qui se lance en affaires, considérant que tu as un parcours ou que tu as vécu plusieurs embûches, que tu as dû recréer plusieurs fois les produits que tu voulais pour finalement arriver à un résultat final. Donc, on sait que justement, des fois, on passe par-dessus des échecs pour finalement arriver à des succès. Donc, ce serait quoi tes conseils à donner à un ou une jeune entrepreneur?
C'est une bonne question, une très bonne question. Je pense qu'on en a parlé à travers la discussion, mais faire ses devoirs financiers, comme on disait tantôt, s'assurer que on fait assez de profit pour justement avoir un distributeur qui va distribuer nos produits, que ce soit en alimentaire ou dans d'autres catégories, là. Je pense que c'est important de s'assurer de bien maîtriser nos coûts revient. Qu'est-ce que ça me coûte réellement produire ce produit-là? Combien je vais le revendre? Parce que ça, c'est aussi des erreurs que j'ai déjà vues. De collègues entrepreneurs avaient mal calculé, mais si ton produit, au lieu de te coûter 5 $, il t'en coûte 7, ça marche pas. Il faut quand même que ça soit viable. Il faut que ça soit viable financièrement, pas nécessairement dans un désir de devenir multimillionnaire, mais il faut pas perdre de sous parce que dans le fond, on peut pas faire aucun changement dans le monde si on fait pas d'argent, malheureusement. Fait qu'il faut que ça soit, faut que les données financières se tiennent. conseille encore plus niveau agro, mais de vraiment tester ses produits. Fait que, tu sais, nous, avant de lancer un produit, ben, il y a du monde qui a goûté, là.
Très important. Oui.
Parce qu'on parlait tantôt justement de la ligne fine. Puis, tu sais, nous, c'est quelque chose aussi que moi, je fais, puis j'y tiens vraiment beaucoup. C'est de, oui, les véganes, mais il faut que ça plaise à tout le monde le plus possible. Parce que, oui, le végan, lui, il va être plus enclin à acheter certains types de produits, puis que ça soit pas nécessairement parfait au niveau du profil de saveur. Exemple, ça goûte pas le bacon exactement, ben je le sais parce que c'est végétalien, puis je suis végétalien, je suis prêt à endosser ça. Mais la personne qui est pas végane, qui veut manger, ben réduire sa consommation de viande, manger des alternatives, ben, faut que ça soit assez savoureux pour cette personne-là aussi, sinon ben on n'aura pas d'impact, encore une fois, sur la réduction du gaspillage dans notre cas. Tester le produit, tester, reformuler, parce qu'au final, comme je disais tantôt, c'est les consommateurs qui votent en achetant les produits. Fait que s'ils l'achètent, c'est parce qu'ils l'aiment, puis ben ça veut dire que ça va continuer. Fait que vraiment tester les produits. Ensuite, je dirais avoir des bons partenaires et des ententes solides. Si jamais on a des partenaires avec qui on collabore, que ça soit super clair. Tu sais, moi j'aime pas ça, les trucs ambigus. Tu sais, tout de suite mettre carte sur table, dire les vraies affaires, combien ça coûte, oui, ça marche-tu, ça marche pas. Si ça marche pas, ça veut pas dire que ça marchera jamais. Mais ça se peut qu'en ce moment, ça soit pas possible. Fait que de juste mettre une croix sur ça puis de continuer vers autre chose, mais de s'assurer qu'on a les bonnes personnes puis des ententes qui sont structurantes pour certains partenariats, par exemple.
Mais t'as amené un, tu veux me faire penser de qu'est-ce qui est vraiment important, justement, c'est d'avancer tout le temps, même si des fois on sent qu'on est freiné par quelque chose, mais c'est juste de, regarde, on passe à autre chose, on continue, on lâche pas, de persévérer malgré tout, donc la persévérance, puis je pense que tu l'as, c'est quelque chose que t'as beaucoup, parce que même à travers ton parcours, on l'a vu que t'as été persévérant, parce que t'as été, ben, avec Avril déjà, pour vouloir, pour vouloir rentrer chez Avril, t'as été très persévérant, et t'as toujours voulu qu'avancer, en fait, dans ta vie, de toujours aller encore plus loin. Donc ça, c'est vraiment, vraiment inspirant, là.
Oui, puis tu sais, j'ai pris des risques quand même dans ma carrière, on va dire, dans ma vie. Puis tu sais, sur le coup, j'étais comme, tu sais, c'est des moments où on se questionne, on se dit, mon Dieu, j'ai fait la bonne affaire, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ci. Mais finalement, avec le recul, ça fait partie des bons coups, je trouve. J'ai eu une rétrospection récemment. Tout ce que j'ai fait, même si à certains moments ça me plaisait pas, tout s'est attaché pour me rendre où je suis aujourd'hui. C'est comme bizarre un peu, là, c'est ésotérique mon affaire, mais.
Mais c'est vrai.
Quand je travaillais chez Gautron, je faisais des présentations à plein, je faisais du Excel tout le temps, je faisais beaucoup d'analyse de la concurrence, puis j'étais comme, mais pourquoi je fais tout le temps ça? T'sais, ça me. Pas que ça me plaisait pas, mais j'étais pas nécessairement une passion. Puis finalement, tu sais, aujourd'hui, ça me sert tellement à faire des business cases, faire des analyses comparatives, faire des structures de prix. Tu sais, moi, je faisais la forfaitisation chez Gautron, fait que les forfaits, tu sais, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on met comme package, fait que faire des structures de prix, j'en ai fait pas mal. Fait que tout ça, aujourd'hui, me sert parce que je fais juste ça de mes journées, pratiquement. Fait que finalement, tu sais, tout le petit chemin s'attache ensemble.
Fait que, tu prends ton bagage que t'as accumulé dans d'autres jobs qui n'avaient même pas un lien avec l'alimentation et tu mets ça dans ta propre entreprise, puis c'est vraiment, en fait, c'est un bon conseil à donner aux gens là, de prendre tout leur bagage, tout ce qu'ils ont appris, même si ça n'a pas nécessairement, on pense que ça n'a pas un lien initialement avec qu'est-ce qu'on fait, là, mais tout un lien, tout fait partie de nous aussi, toutes nos connaissances, et c'est aussi ça qui nous donne envie de partir tel projet, ça vient de qu'est-ce qu'on sait aussi, là, donc, puis de qu'est-ce qu'on, dans quoi on est bon aussi, là, donc si tu as travaillé pendant plusieurs années à faire, là, j'ai pas trop compris les termes techniques, là, mais à faire ces choses-là, ben, veux pas, après, ben, t'as envie de continuer à faire ça, mais dans un autre contexte, là.
Ouais, puis dans chaque situation, tu sais, mon collègue, il donne tout le temps cet exemple-là, puis c'est vrai, dans chaque situation que tu travailles, exemple, chez McDonald's, parce que lui, il le fait, tu sais, quand tu le fais, c'est pas nécessairement la place que tu veux être, parce que, bon, tu commences de 16 ans, c'est ta première job, mais, tu sais, prends le meilleur de cette situation-là, qu'est-ce que tu peux apprendre aujourd'hui? Lui, il a travaillé là quand même un moment, je sais pas combien de temps exactement, mais il a travaillé chez McDonald's, par exemple. Tu sais, il a tout compris, les opérations, comment être efficace, OK, quand on fait ça, puis, tu sais, c'est une école, maintenant, il y a même des livres là-dessus sur la méthode McDonald's, tu sais, comment ils sont efficaces, puis ils ont révolutionné l'industrie du fast-food. Quand t'es là-bas, ben, va chercher le meilleur de ça, même si tu penses que ça va pas te servir, au final, ça te sert sur plein d'affaires plus tard, tu sais. C'est vraiment le fun de, comme, s'ouvrir un peu les oreilles pour regarder autour de nous, tu sais, qu'est-ce que je fais en ce moment, ça peut-tu me servir à quelque chose un jour? Fait que, ça peut être un autre conseil. Puis, autre conseil aussi, bien connaître son industrie, ça, c'est super important. Encore une fois, qu'on soit en alimentaire ou dans d'autres choses. Tu sais, savoir c'est quoi, c'est quoi les marges, c'est comment on vend un produit, est-ce qu'on passe par un distributeur, est-ce qu'on le vend en magasin, si on le vend en magasin, comment ça marche. Fait que, tu sais, toute cette chaîne-là, ce milieu-là, l'écosystème dans l'industrie où on est super important. Parce qu'on peut se planter si on ne fait pas ses devoirs puis on ne fait pas ses recherches par rapport à l'industrie en soi.
Il faut vraiment se préparer puis bien développer son entreprise. C'est la partie la plus importante. Là, le début, là, c'est là qu'on prend justement les grosses décisions puis qu'on décide de toute la structure, bien s'entourer, ça c'est sûr. Mais aussi, comme on avait dit tantôt, je le répète, s'écouter. S'écouter. Puis nous, justement, tu dis faire ses devoirs, mais ça tombe sur nous, rendu là, la personne qui est au-dessus de la pyramide, qui prend les décisions, ben il faut avoir justement fait ses recherches puis s'être bien informé avant. Puis après, s'il y a vraiment de quoi qu'on ne sait pas du tout faire, on délègue à quelqu'un d'autre, là, mais il faut vraiment connaître les bases.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je donne un exemple concret, par exemple. Tu sais, on parlait du prix tantôt. Ben, demain matin, tu lances des gâteaux, pour prendre mon histoire de tarte. Si tu lances, tu lances une tarte vegan, mais elle coûte 30$, on exagère, mais elle coûte 30$ sur le marché. Tout le monde vend des tartes similaires, même pas vegan, sont 8$, ben c'est plate, mais t'en vendras jamais. T'sais, ça marche pas. Il faut que ça se tienne dans l'écosystème, dans le marché. Est-ce que ça fait du sens que tu proposes au prix proposé? Ça pourrait être un autre exemple, quelqu'un, une coiffeuse, par exemple, si elle charge 5 fois le prix de tout le monde, qui est à Longueuil, par exemple, ben ça fait pas de sens. T'sais. Après, c'est sûr qu'il y a des marchés, si tu es à Montréal, c'est peut-être plus premium. Bon, il y a plein d'affaires qui changent, il y a des services aussi qui peuvent graviter autour, mais il faut quand même connaître son industrie et savoir ben c'est quoi les services, comment je me positionne en termes de prix, comment je me positionne en termes de proposition de valeur, qu'est-ce que j'offre de différent aussi pour se positionner par rapport aux concurrents. Ça, c'est super important. Aussi en alimentaire, il y en a beaucoup des nouveaux produits de plus en plus. Puis la tolérance des magasins est de plus en plus faible. C'est-à-dire, si tu rentres en magasin et tu vends pas à un certain niveau, ben c'est plate, mais il y en a 30 en arrière qui attendent pour prendre ta place. Fait que tu resteras pas longtemps sur la tablette. Fait que ça, c'est l'autre gros bout aussi qui est difficile. Rentrer en magasin, c'est une chose. Mais après, garder sa place, ça, c'est l'autre bout challengeant. Fait que ça, c'est un autre petit conseil. Puis dernier, peut-être, ce serait, comme je l'ai dit tantôt, d'être passionné parce que les heures, on les compte pas. Faut pas les compter, puis faut vraiment s'investir, je pense, tout son corps et son âme là-dedans, parce que si on le fait juste pour des raisons monétaires ou des raisons de flexibilité, d'heures de travail, ben finalement, t'en fais plus de toute façon, fait que ça va pas combler tes besoins. Là.
Et puis pour le titre, de dire qu'on est entrepreneur, parce que ça sonne donc bien qu'on est dans business, mais en fait, là, c'est parce que la réalité, c'est qu'on est des humains. Là. On n'est pas des surhumains non plus. Il y a toujours quelqu'un avec, c'est ça, une passion derrière ça. Puis les gens qui font ça que pour l'argent, ça paraît, là.
Ben oui,
Tao,
ben oui.
Dans l'épisode précédent, a parlé des entreprises qu'on voit qui sont sans âme. Puis ça me parlait beaucoup parce que ça se ressent quand une entreprise a une âme, qu'il y a vraiment quelqu'un derrière qui apporte quelque chose, qui veut faire une différence. Puis je pense que c'est un petit peu ça aussi avec toi et Wisely Food. On voit qu'il y a justement une âme derrière les produits. Là, c'est pas juste des pizzas et du tofu brouillé. Là. On voit qu'il y a plus. Là.
Oui, exact. Non, c'est ça. Fait que, puis Tao est super aussi. J'adore son entreprise. C'est vraiment une bonne personne. Fait que je comprends son point, c'est ça. Si tu le fais pour les bonnes raisons, ça va se sentir et ça va rayonner à l'extérieur de toi, mais à travers l'entreprise, tu sais. Fait que c'est super important, ça, là. C'est sûr et certain.
Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour Wisely? Qu'est-ce que tu peux dire qui s'en vient? Donc là, c'est sûr qu'en ce moment, les premiers produits sortent, là. Donc déjà là, allez vous pitcher là-dessus, là, parce que c'est incroyable. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux dire pour l'instant?
Qu'est-ce que je peux dire, mon Dieu? Tu me prends au piège.
Non, mais si tu peux rien dire, c'est correct, mais ben, on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour le savoir.
On peut me suivre. Ben, je peux quand même dire quelque chose, mais c'est pas fait. Fait que je veux pas faire de fausses attentes ou de faux espoirs, mais nous, on avait quand même travaillé l'année passée sur une gamme de sauces vegan. Fait qu'on avait même participé au concours d'UX. On avait été finalistes. Fait que ça avait super bien fonctionné. Les gens avaient bien apprécié la texture, le goût. Bref. On l'a mis sur le hold un peu ce projet-là, mais on veut le remettre sur la carte pour 2022, mais j'ai aucune idée quand, je sais pas comment ça va se faire, mais c'est un produit qu'on a dans la mire pour 2022, puis on en a d'autres, mais ceux-là sont secrets, je peux vous dire.
OK, bon, il n'y a pas de problème pour les secrets, puis ce que j'aurais à dire alors pour les gens qui nous écoutent, c'est que si vous êtes intéressés par plus de produits de Wisely Food, ben allez leur écrire sur Instagram, Facebook, ouais, sur le site internet, peu importe, mais allez leur dire qu'est-ce que vous voulez, puis who knows, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois.
Exact, mais la meilleure façon, comme tu dis, c'est de nous suivre sur Instagram, Facebook, puis on va communiquer. On commence tranquillement à mettre du contenu, là. C'est tout nouveau, ces plateformes-là pour nous. Fait que soyez pas surpris, on a genre 5 photos en ce moment. Mais on va populer ça, on a plein de choses sur la table, on va faire des petites vidéos, expliquer c'est quoi le CARA, parce qu'on explique sur nos emballages, mais ça reste quand même juste un texte, on veut vraiment le montrer aux gens, voir c'est quoi, comment c'est traité, qu'est-ce que ça a l'air visuellement, moi j'arrête pas de dire ça ressemble à un petit nuage, là. C'est tout blanc, c'est tout fluffy, c'est le fun, fait que montrer un peu aux gens c'est quoi, puis nous suivre aussi dans le quotidien, c'est quelque chose que je veux faire, montrer un peu plus c'est quoi nos journées,
oui.
Que les gens ils voient que pas toujours rose. Puis des fois, ça va bien, exact. Des fois, ça va moins bien. Puis des fois, on est content.
Des behind the scenes, oui.
Oh, ouais, des behind the scenes qui nous suivent dans cette aventure-là parce que tout le monde va contribuer à ça en achetant nos produits, dans le fond. Fait qu'on est super, super content. Fait que suivez-nous ouais, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook.
C'est vraiment le fun, l'aspect justement de communauté. C'est ça qu'on voit beaucoup dans la communauté végane. On dirait que les entreprises puis les consommateurs font qu'un, puis je trouve ça tellement le fun. Donc, vraiment, merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. C'était vraiment intéressant. Je pense que les gens vont en avoir appris beaucoup. Donc, comme on le redit, allez suivre Wisely Food sur les réseaux sociaux, puis allez essayer leur pizza, puis leur tofu brouillé. C'est trop bon, je vous le dis. Puis, vous me connaissez, je suis bien honnête dans mes avis de bouffe que je teste, là. Donc, faites-moi confiance.
Un gros merci à toi.
Merci, bonne journée, bye.
Bye.
J'espère que l'épisode de cette semaine va vous avoir autant outillé que moi. Ben franchement, les conseils de Sébastien, c'est sûr et certain que je vais les appliquer autant dans mon quotidien que dans mes différents projets, dans mon entreprise que je bâtis. Donc, je suis vraiment contente de cette discussion que j'ai eue avec lui. Sinon, pour encourager le podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de diffusion où vous écoutez les épisodes. Vous pouvez aussi noter sur 5 étoiles le podcast. Donc, si vous mettez un petit 5 sur 5, je serais bien heureuse. Et vous pouvez le partager sur vos différentes plateformes pour le faire voir au plus de gens possible. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. On va boucler la boucle de l'année 2021 de la saison du podcast, mais on se retrouve quand même en février pour la saison 2. Donc, d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Bye!